Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en décembre 2009 et c'est l'épisode numéro 23. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on apporte la technologie, je vais corriger ce que je viens de dire, où on met la technologie à la portée de tous, mais visiblement pas le français. La technologie, ça veut dire, bien sûr, vous le savez, Internet, gadgets, Google, Apple et toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on va parler particulièrement d'Apple, de Facebook et de Google. Et pour m'aider à discuter de tous ces sujets, j'ai deux invités que je respecte et que j'admire particulièrement, mes deux podcasteurs préférés, parce que ce sont ceux qui sont là avec moi aujourd'hui, sinon ça serait les autres. C'était pas drôle, non? Vous n'avez pas ri?
On est un peu dans.
Même pas, d'accord. Donc Mathieu Blanco et Cédric Bonnet, Mathieu de MacJT et Cédric de Geeking, comment allez-vous les jeunes?
Alors je laisse parler, c'est lui le plus jeune, non?
Ah, allez, bah écoute, ça va super bien, c'est toujours un plaisir de venir à cette émission.
Partagez. Vous avez des choses incroyables qui vous sont arrivées ces dernières semaines? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas eu dans l'émission.
Ah bah évidemment, tout cas Geeking a rejoint No Watch TV, donc ça c'est un événement.
C'est énorme, c'est vrai. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure, à la fin de l'émission, mais c'est vrai que ça a été une sorte de tremblement de terre dans le monde des podcasts vidéo français.
Ah bah là c'est un peu le 2012 du podcast.
C'était un petit peu ça, et vous aurez plus de détails à la fin de l'émission. Une émission un petit peu spéciale parce que on a aussi une interview d'un jeune homme très bien qui s'appelle Jean-Jacques Sahel, qui est le directeur des affaires gouvernementales et régulatoires, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit en français, chez Skype. Donc c'est un monsieur qui a beaucoup à faire avec la Commission européenne qui parle beaucoup de la question de la neutralité du net qui concerne très directement les activités de Skype. Donc on a eu une petite discussion plus tôt dans la journée et j'intégrerai cette interview à la fin de l'émission. Donc c'est la partie un petit peu spéciale.
C'était
de cette
interview
émission
que tu voulais faire ou tu as des soucis gouvernementaux
Non,
juste tu sais des choses.
pour le moment, le gouvernement ne s'est pas encore intéressé au rendez-vous tech.
D'accord.
Peut-être que ça viendra, mais ouais, pas encore. pour le moment, on va se consacrer à l'actualité et on va commencer avec une petite série de questions marketing. La première sur Facebook concernant IKEA. Est-ce que vous avez vu cette histoire de marketing IKEA sur Facebook, la manière dont ils l'ont fait?
La vidéo n'est plus disponible sur YouTube, donc quand j'ai vu le sujet...
Ah, damned, c'est plus disponible.
Quand tu essaies de la lire, on te dit que quelqu'un a demandé le retrait de la vidéo à cause des droits d'auteur encore.
Oui, toujours.
Ah, damned. Cédric, t'en as entendu parler, toi?
Oui, j'en ai entendu parler, mais en fait, c'est juste une histoire de tag de photo, finalement.
Bah voilà, oh, il donne la fin avant même qu'on ait expliqué.
Et à la fin, ils dort tous.
Oh, désolé.
Bah en fait, oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a une agence de pub qui a été commissionnée par IKEA pour faire une campagne virale, hein, comme toujours, cette sorte d'Eldorado du web, faire un truc qui se répande un petit peu partout sur le web. Et ils ont décidé d'utiliser Facebook pour faire cette campagne, avec une idée absolument géniale, c'est-à-dire que pour l'ouverture d'un nouveau magasin IKEA, ils ont décidé de prendre des photos, vous savez, ces petites chambres IKEA ou ces pièces IKEA avec, tout le monde connaît, les chambres témoins où on a différents meubles IKEA qui sont montés, mis en situation, et quand vous vous baladez chez IKEA, vous voyez ce que ça donne. Et ils ont donc mis des photos de ces chambres témoins sur Facebook en faisant un jeu, c'est-à-dire que il fallait nommer les différents meubles qui étaient présentés avec la fonction de tag.
Jokmok et compagnie, là, c'est ça?
Voilà, exactement. Gloguk, Jokmo, Vorglak. Alors déjà, le premier jeu, c'était de trouver le nom du truc, c'était pas évident.
Ensuite, c'était d'acheter un clavier suédois, parce que certaines touches un peu bizarres.
Et une fois que vous aviez trouvé Glockmak, si vous étiez le premier à le taguer, le Glockmak, sur la page Facebook, et ben vous pouviez gagner le Glockmak.
Donc
le truc là où c'est vraiment vraiment génial, c'est que quand vous taguez quelque chose, vous rejoignez le groupe et vous taguez quelque chose, ça va le dire à vos amis bien sûr dans votre flux Facebook. Donc très vite, l'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Il y a énormément de gens qui se sont intéressés à la question, et bon, c'est une campagne virale super réussie qui a utilisé qui n'a coûté quasiment rien et qui a utilisé des outils qui sont disponibles pour tout le monde. Donc moi j'ai trouvé cette idée absolument géniale, quoi.
Si je ne m'abuse, en fait, il n'y a pas des utilisateurs qui ont aussi tagué leurs propres photos avec le meuble?
J'ai pas vu cette partie.
Il me semble qu'il y a eu une petite dérivée sur la, enfin plutôt une longue traîne, on va dire, et certains sont amusés à taguer des photos qu'ils avaient sur de leurs meubles qu'ils avaient prises et uploadées sur Facebook.
C'est ça qui est vachement bien avec IKEA, c'est que comme tout le monde a les mêmes, t'es un peu chez toi, mais chez tout le monde.
C'est ça.
Quand tu vas chez les gens, tu te sens tout de suite à l'aise, tu vois, t'es bien, j'ai le même meuble, la même table, en fait, t'es chez toi.
Exactement, ouais. Non, et donc là, t'es chez toi, même sur Facebook.
Même sur Facebook, t'es chez toi. Non, mais c'est un truc qui est vachement bien, parce que je pourrais aussi vous faire un petit retour d'ici un mois ou deux, parce qu'on va commencer à utiliser Facebook et Twitter dans des restaurants. C'est-à-dire que je vais voir l'impact des réseaux sociaux dans des restaurants, ce qui n'a rien à voir à première vue, mais l'impact sur le chiffre d'affaires grâce à des campagnes virales sur Internet, c'est-à-dire que tu incites les gens à devenir amis avec toi ou à te suivre sur Twitter, à suivre le restaurant en question. Et puis de temps en temps, on va faire des campagnes de pub ciblées avec justement des opérations un peu comme ça, mais de manière locale.
Et donc il va falloir nommer les pizzas et les plats, c'est ça?
Enfin, moi j'ai un paquet d'andouilles à taguer, hein, je te le dis.
Le tag d'andouille, c'est pas mal, effectivement.
Mais en gros, on va voir, et puis on a fait quelques tests, et puis effectivement, ça peut représenter, si c'est bien fait comme IKEA ou comme d'autres campagnes virales, ça peut représenter entre 5 et 20% du chiffre d'affaires journalier d'un point de vente. Donc ça, c'est assez phénoménal. Je vous ferai un petit retour vidéo là-dessus.
Ok, bah écoute, on attend ça avec une impatience non dissimulée.
C'était moi qui étais... Il a des notes comme ça, des phrases toutes faites qui sont écrites.
C'est ça le professionnalisme, mon cher Mathieu. L'autre histoire marketing qui nous a un petit peu marqué, c'était la nouvelle pub du Droid. Ouais, qui est quand même vachement bien. Vous savez, le Droid, c'est ce nouveau téléphone de Motorola qui est un petit peu agressif envers l'iPhone et qui a fait des pubs très... Comment les définir, les premières pubs? C'était genre...
Des pubs comparatives.
Voilà, ouais. En gros, c'était vraiment le Droid.
Le slogan, il peut... Droid peut, Droid does.
Voilà.
In a Droid world does. Doesn't, Droid does.
Donc, il est avec cette voix.
C'est donc toi dans la pub, la voix du doublage.
Oui, c'est moi, en fait.
Donc, pour résumer la chose, en fait, il y avait une campagne de pub où il disait I can't do this. Donc, je ne peux pas faire ceci avec I don't do this, I don't do that, avec l'imagerie de l'iPhone. Et donc, ça mettait l'accent sur toutes les choses que l'iPhone ne pouvait pas faire. Et en parallèle, évidemment, ils ont présenté le Droid en disant, le Droid, lui, il peut faire tout ceci et tout cela. Et toutes les limitations qu'Apple impose à l'iPhone, elles ne sont pas de mise sur le Droid. Donc, ça, c'était de la pub comparative un petit peu basique, qui était agressive, mais qui n'était pas non plus... Enfin, personnellement, moi, ça ne m'avait pas énormément touché. Par contre, la dernière pub a un trait de génie qui a été très bien formulé par Jérôme de Scuds, quand on en a parlé sur Twitter. Ils ont réussi à trouver le talon d'Achille de l'iPhone, c'est-à-dire qu'ils l'ont féminisé. Non que les femmes soient une faiblesse en soi, mais c'est-à-dire que là où on n'arrivait pas exactement à mettre le doigt sur cette chose qui faisait que l'iPhone était un petit peu précieux, un petit peu... La manière dont ils le disent dans la pub, c'est que l'iPhone est une princesse d'un concours de beauté. Et que le Droid, c'est un vrai robot qui est efficace, rapide, fort, etc., etc. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça super bien trouvé, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a vu cette pub, on vous la mettra en lien dans les notes de l'émission, mais une fois qu'on a vu cette pub, c'est vrai qu'on se sent un petit peu idiot avec ce téléphone aux lignes épurées, ce machin d'esthète. On se dit, bah oui, c'est vrai que moi, j'ai pas forcément acheté mon téléphone pour que ça soit un bel objet que je suis censé exposer dans un musée. Moi, j'ai envie d'un truc qui marche, qui soit un ordinateur puissant et tout. Donc moi, j'ai trouvé ça super bien trouvé, parce que personne n'avait réussi à présenter l'iPhone sous un jour qui ne soit pas désirable. Et là, ils ont justement montré tourné cette désirabilité comme un défaut. C'était un coup de génie, à mon sens.
Ouais, alors moi, je trouve ça pas mal.
Tout de suite, l'enthousiasme retombe.
Ouais, non. Enfin, attends, j'en ai acheté un, donc je peux pas...
Non, mais la pub, tu trouves
voilà,
juste ça pas mal.
Voilà, j'en ai acheté un Milestone, donc ouais. Un Droid, du coup...
C'est le Droid en France, il s'appelle, si vous voulez courir dans un magasin, il s'appelle le Milestone en France.
Ouais, enfin, on va pas courir très loin parce qu'en fait, il est uniquement en commande sur rue du commerce jusqu'au mois de janvier, fin janvier.
D'accord.
C'est vrai, il y a une exclue. Donc, on va pas courir très loin.
Ne suivez pas les conseils de Patrick, là, vous aurez un peu bête. Vous savez, le Droid, le Milestone, non?
Voilà, c'est le Milestone, en fait, donc c'est chez rue du commerce, 521 € avec une promo jusqu'au 15 décembre, il me semble.
Ils font de sacrées promos rue du commerce. T'achètes un portable, ils te donnent des points sur ton permis. Enfin, il y a des trucs assez impressionnants sur le site rue du commerce. On se demande comment ils font.
Bon, enfin, quoi qu'il en soit, bon, moi je l'ai acheté, donc la pub me parle bien et je suis très content et j'adore le slogan Droid Daz. Et d'ailleurs, j'ai vu les pubs en espagnol avec Droid Puede, je trouve que ça le fait un peu moins. mais c'est pas une blague, hein, cherchez-le en espagnol, vous les verrez parce qu'il y a beaucoup d'hispanisants aux États-Unis. Donc, moi, la pub m'a bien parlé. Je l'ai montré tout à l'heure à ma compagne, Sophie, hein, pour ceux qui suivent les podcasts de Geeking ou autre. Je lui ai montré la pub, elle m'a fait « Mais c'est quoi ton truc, là ?» J'ai dit « Mais je sais pas, c'est une publicité, comment est-ce que tu comprends le message ?» Elle m'a dit « Je comprends qu'il est pas pour moi, ce téléphone. »
Oui, non, mais c'est clair, c'est exactement
c'est
ça, le message.
En fait, c'est quand même hyper... Il faut dire ce qui est, c'est hyper agressif. Ouais. Surtout quand ils... Enfin, après, ils ont des références que j'adore, du genre... vous surfez aussi vite sur le web qu'une scie circulaire coupe une tranche d'une banane. Enfin, une image assez particulière. Puis ce que j'adore aussi, c'est que je pense que Jérôme de NoWatch, hein, Scuds, a dû cautionner cette publicité, puisqu'à un moment, il parle carrément à la vitesse d'un Scud. Et on voit bien marqué Scud écrit en gros derrière. Je pense que c'est un message subliminal caché.
Mais donc, pour toi, enfin, il est évident que c'est une pub, quand on dit qu'il féminise l'iPhone, évidemment, il ne s'adresse plus aux femmes à ce moment-là. Il s'adresse aux fans de technologie qui, là où les fans de technologie étaient a priori acquis à l'iPhone, là, il leur donne une autre alternative d'une manière... Tiens, je vais jouer, je vais voir si vous pouvez entendre la pub pour donner un petit peu l'ambiance, une idée de l'ambiance. Should a phone be pretty? Should it be a tiara-wearing, digitally clueless beauty pageant queen? Or should it be fast? Racehorse duct tape to a stud missile fast. We say the latter, so we built the phone that does rip through the web like a circular saw through a ripe banana. Is it a precious porcelain figurine of a phone? In truth, no. It's not a princess. It's a robot. A phone that trades hairdo for can-do. Voilà, c'est pas une princesse, c'est un robot. C'est vraiment c'est sûr qu'en disant ça, ils vont pas gagner des clients chez les jeunes filles comme ta compagne. Mais je pense que c'est pas le but non plus. Et disons que je pense pas que c'est l'arme parfaite, mais ce qui m'a semblé intéressant, c'est que ils réussissent à attaquer l'iPhone d'une manière que personne n'avait trouvé avant. Et de ce point de vue-là, c'est efficace. Et comme le dit Jérôme dans la chatroom, on a oublié de dire bonjour à la chatroom d'ailleurs, salut les gars, les primo-accédants, les gens à qui ils s'adressent sont 90% de garces, de mecs. Donc, ouais. Tu vois, ils savent à qui ils sont en train de parler. Bon, bref, toi, t'es pas convaincu, Cédric.
Moi du coup, il se coupe quand même une grosse partie du public qui est le public féminin. Hein. Ouais. Et c'est. Bon, c'était quand même hyper masculin déjà, les premières pubs étaient très très masculines. Là, pour le coup, ça y est, c'est terminé. Ou alors, c'est pour les filles qui en ont, quoi, tu vois. Mais,
si vous êtes une fille et que vous conduisez des camions et que vous écoutez le rendez-vous tech toute la nuit, vous pouvez acheter un droïde ou un
mec. Voilà, c'est ça. Non, non, après, moi, j'adore, évidemment, en tant que fan de Star Wars, qu'ils aient repris le nom droïde. Bon, c'est une marque déposée par Lucas, hein. C'est pour ça qu'en France, il s'appelle pas le droïde, pour des questions de droit, mais... Le fait qu'ils reprennent cette image-là, du robot... En plus, ils vont très très loin dans leur publicité puisqu'ils expliquent que ce téléphone est capable de tout faire en même temps, faire plein de choses. C'est un vrai assistant. C'est un... En gros, c'est comme si on avait un R2 dans la poche, quoi. C'est ça, en fait, l'image qu'ils veulent donner. Mais c'est vraiment ça. Ouais, ouais. Et quand on voit comment sont tournées les pubs, c'est ça. En gros, vous avez un...
D'accord. Est-ce qu'au final, quand tu l'as dans la main et que tu l'utilises, il est bien? Bah, c'est ça qui nous intéresse.
Moi, je ne l'ai pas encore eu dans la main.
D'accord.
J'attends de le recevoir. Mais...
D'accord. Parce que ça, c'est un truc que je reprocherais à plein de marques, c'est de faire des pubs qui étincellent, machin, où t'as plein de des scies circulaires qui coupent des bananes ou des trucs comme ça.
Mais,
ouais. Mais au final, ils te montrent pas comment fonctionne le produit.
Ouais. Après, ça reste de l'Android. Bon, moi, pour avoir vu des terminaux sous Android et un bon paquet, je peux te dire que ça marche très bien et que j'ai plus d'iPhone, quoi, très clairement.
Oui, mais non, mais ne repartons, excusez-moi, ouais, je vous interromps, mais ne repartons pas dans la question de est-ce que le droïde est bien ou pas. Moi, je voulais vraiment qu'on parle de cette de la pub, quoi, et de cette attaque qu'ils ont fait vers l'iPhone.
Il y a une autre pub qui est vachement bien. Bon, là, c'est envers l'iPhone, mais c'est plus aussi envers AT&T. C'est l'histoire des cartes. C'est Verizon qui a sorti une pub. Ouais. Je sais pas si vous les.
Dont on avait parlé, ouais, on en avait parlé. Je crois qu'on en a parlé. Mais effectivement, mais ça c'est très américain quand même. Ça parle aux Américains, quoi.
Ouais. Bon, mais, c'était quand même rigolo cette pub du droïde et de la princesse. Ouais. C'est pas mal, quoi.
Bah, Scholastic dans la chatroom dit le droïde nouveau symbole phallique. C'est exactement ça. C'est très 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 masculin, très puissant, très. C'est ça. Hein. Et par opposition, ils te disent oh, ouais, regarde le mec qui garde sa petite figurine en porcelaine de l'iPhone là, qui est tellement beau qu'il l'embrasse le matin et le soir, comme finalement c'est un petit peu ce que nous on fait dans nos émissions depuis un moment. On est en admiration devant l'iPhone. Ben, au final on se trouve un petit peu con à être aussi admiratif, quoi.
Donc ça parle aux gens qui ont un Alienware. Voilà.
Un petit peu, oui, c'est ça, c'est le truc de Kéké. Bon, Mathieu, toi, tu n'as pas dit si ça t'avait paru efficace comme
leur but c'est de s'adresser aux gens qui ont des Alienware ou qui veulent juste le portable avec une puce ultra puissante dedans. Oui, la pub est réussie. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai qu'après, quand tu te dis bon. Au final, c'est pour un téléphone.
Oui, mais la question n'est pas de savoir si ça vous plaît directement. Je veux dire, si c'est mais ça
sinon,
montre
oui,
le téléphone.
C'est super réussi parce qu'effectivement, bon, comme okay. tu le dis, c'est les premiers qui attaquent et à qui tu peux pas dire non, mais machin ou trouver une excuse. C'est vraiment ils attaquent ouais, sur un point.
Non, on peut rien dire.
Ok, je vois que en étant suffisamment.
Je retourne à mon 3310.
Ok. Je vois qu'en étant suffisamment frustré par vos réponses et en m'énervant un petit peu, j'ai réussi à vous faire dire exactement ce que je voulais que vous disiez. Donc, merci beaucoup. C'est gentil, les gars, de me soutenir dans cette analyse. J'apprécie.
Pas de souci, je t'envoie la facture.
Une autre nouvelle qui concerne un petit peu Apple aussi, et même beaucoup, c'est cette info que tu as inclue dans les notes de l'émission, Mathieu. C'est la nouvelle que Apple a racheté Lala.
Voilà. Alors, Jeff en avait parlé en plus de Lala dans le dernier ou dans l'avant-dernier, non?
Oui, il en avait parlé, oui, effectivement.
Ouais, mais Jeff investit partout.
Alors c'est quoi Lala déjà et pourquoi est-ce que ça intéresse Apple?
C'est un genre de Spotify, c'est un genre de Deezer avec des services un peu mieux où on peut en gros vous allez sur lala.com et vous allez retrouver un iTunes dans le site en bleu où vous allez pouvoir écouter je sais pas combien de millions de titres en streaming comme un Deezer. Après, il y a d'autres services où vous pouvez carrément envoyer vos propres chansons sur le service et composer vos playlists. Enfin, en gros, c'est un iTunes directement accessible depuis une page web.
En streaming, ouais.
En streaming, voilà, tout simplement. Mmh. Et
donc, pourquoi est-ce qu'Apple s'est intéressé? Ils ont carrément racheté, là, ça y est, ils ont donné leur accord
de
rachat.
Ils ont fait un gros chèque, hop, là, c'était... Bon, en même temps, ils sont assis sur 30 milliards de cash, donc ça va, racheter Lala, ça leur fait pas trop peur.
Non, c'est sûr. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va avoir du streaming dans iTunes, un service de streaming?
Imagine que t'es un petit onglet là dans le côté dans le côté juste au-dessus de tes playlists et où tu peux écouter 7 millions ou plus, vu que Apple voilà a un peu de poids dans le marché de la musique numérique, carrément pouvoir écouter 10 millions de titres en streaming.
Mmh. Oui, c'est vraiment ça sent ça quoi.
Ouais, mais de toute façon, ils peuvent rien faire. Hein. Je veux dire, bon, quand ils rachètent une société comme PA Semi qui fait des microprocesseurs, tu peux faire des plans sur la comète. Mais là, quand ils rachètent une boîte qui fait que du streaming audio, ouais. tu peux pas faire d'autres déductions. Hein. Là, on sait très bien que Spotify et Deezer, à mon avis, sont en train de faire le tour de la question. Hein.
Bah, moi, la question, effectivement, le truc, c'est que les services de streaming sont en train de se développer de manière très, très impressionnante. Et c'est une des cordes qui manque à l'arc d'Apple. Encore aujourd'hui, sur iTunes, on ne peut pas vraiment, on n'a pas vraiment un service de streaming robuste.
Si tu peux écouter 30 secondes de la chanson.
Oui, c'est ça. Mais c'est pas prévu pour une utilisation intensive.
Comment dire, le service n'est pas prévu dans cette optique, c'est-à-dire. Ouais. Quand tu écoutes un morceau sur Spotify, tu peux cliquer sur tu veux commencer à la moitié de la chanson, tu cliques et puis hop, en l'espace d'une seconde, il va tout de suite recommencer la chanson. Tu as l'impression qu'elles sont stockées sur ton ordinateur parce qu'ils utilisent tout un ensemble de technologies qui permettent ça. L'écoute dans iTunes, ça télécharge un bête fichier AAC. Ouais. Et qui n'est pas prévu pour l'écoute en streaming ou le déplacement. Donc on va voir. Et c'est peut-être pour ça qu'ils veulent construire un énorme data center.
Moi, je pense que à un moment, ce qui va arriver, c'est cette sorte de d'arlésienne d'iTunes et d'Apple, qui est le service d'abonnement, et que le streaming sera inclus dans ce service d'abonnement à un moment.
Ah, mais si Apple le fait, c'est bon. Hein, mais de toute façon, ils font toujours. Tu regardes dans toute l'histoire d'Apple depuis que Steve Jobs est revenu, ils ont toujours fait les choses en décalé. Ils laissent plein de boîtes aller vers dans des domaines, les netbooks, les boîtiers TV, tout ça. Et si ça marche, au bout de 4 ans ou 7 ans pour l'iPhone, ils en font un. Et ils en font un bien, généralement.
Mais écoute, moi, c'est le truc qui me manque encore sur iTunes. S'il y a un abonnement à la musique, je l'ai déjà dit, mais genre une dizaine d'euros par mois pour avoir accès à toute la musique d'iTunes en illimité, évidemment, je serais client.
Et puis en plus, il y a un truc qu'on peut être certain, c'est s'ils sortent un service de musique en streaming avec abonnement, on ne sera pas obligé d'attendre 4 mois le temps que l'application soit validée sur l'iPhone.
Ah oui, ça c'est sûr que...
Ah oui, à mon avis, elle sera incluse dans le prochain firmware.
Voilà, elle sera incluse et puis bon, par contre, il ne faudra pas l'attendre sur Google Android, ça.
Oui, ça c'est certain, oui.
C'est pas grave, on a Spotify.
Voilà, il y a...
Autre nouvelle dont tu parlais, Mathieu, c'est le fait que le streaming rapporte plus d'argent que la radio. Alors ça, c'est un petit peu surprenant quand même. Donc ces services de streaming de musique rapportent plus d'argent. Alors déjà, comment se fait-il que le streaming rapporte de l'argent? Première nouvelle.
En fait, c'est plus une réflexion de la personne qui a écrit un article sur Electron Libre, mais c'est pas bête son truc. Donc en gros, il calcule que voilà, les radios, elles payent un certain montant quand elles diffusent une musique par auditeur, qui est de l'ordre de 0,00 entre 1 et 3 euros par chanson qu'il diffuse. Et quand il fait le calcul, il se rend compte que, bien sûr, la radio, elle touche des millions de personnes, donc il paye rien du tout par chanson. Mais quand il fait exactement le même calcul avec les chiffres de Deezer, de Spotify et d'autres services en streaming, on se rend compte qu'une écoute, quelqu'un qui écoute de la musique sur Deezer rapporte plus d'argent au SACEM et autres organismes qu'une personne qui écoute une chanson à la radio. Voilà, aussi simple que ça.
Ouais, donc on n'est pas encore au volume par streaming, on n'est pas encore au volume qu'on a dans la radio, mais voilà. Chaque auditeur.
On est à 35 fois.
Ouais, c'est quand même énorme. Ah oui, 35 fois, c'est effectivement pas négligeable du tout, quoi.
Et puis après, c'est un article qui soulève pas mal de questions, bien sûr sans réponse. C'est comment sont répartis tous ces sous qui rentrent parce que c'est pas prévu dans leur truc machin, donc on a un peu l'impression que en même temps ils sont contre, c'est-à-dire toutes les SACEM et compagnie, ils sont contre machin le piratage, mais en même temps ça leur apporte des sous et puis c'est pas encore clair dans leur manière de rétribution, de calcul, c'est super opaque comme d'hab, donc ça soulève encore une fois plein de questions sans réponse et puis on se rend compte que finalement ça leur rapporte pas mal de sous, mais qu'ils savent pas comment le calculer, et puis ils savent pas le ventiler. Donc c'est un article qui soulève de très bonnes questions.
Bah là encore, c'est un problème de business model, quoi.
Voilà, enfin, tout simplement.
On en a déjà parlé. Ouais.
Mais voilà, c'est des très bonnes questions soulevées. Puis ils donnent des chiffres officiels, donc ça permet d'avoir un peu de biscuit quand on discute de ça.
Eh ben, l'article d'Electron Libre sera évidemment en lien dans les notes de l'émission. Une autre question de business model, c'est la question des journaux et des sites web de journaux sur le net. Vous vous souvenez certainement qu'on a parlé il y a peu de la sorte de grand coup de points sur la table de Rupert Murdoch qui disait « Moi, j'en ai marre que les gens aient accès à mes news. » Rupert Murdoch, évidemment, le président de News Corp, ou le propriétaire de News Corp, je ne sais pas quelle est sa position exactement, qui a un certain nombre de titres très prestigieux, comme le New York Times, si je ne m'abuse, qui sont accessibles par Google News. Et il disait, moi j'en ai marre, ça nous fait perdre de l'argent, donc je veux faire en sorte que mes sites de journaux soient payants. D'ici peu de temps, ils seront payants. Et évidemment, tout le monde a dit, enfin c'est pas possible, se couper de Google de cette manière et mettre ces sites derrière un portail payant, c'est impossible. Mais ça a quand même eu un effet sur Google qui va proposer très bientôt une nouvelle technologie qui s'appelle Google First Click Free. Ça veut dire que il y aura un moyen pour les journaux qui veulent faire payer leur contenu d'être référencés sur Google News et les internautes qui arriveront sur ces sites par Google News pourront lire un ou deux articles, par exemple, un ou deux articles par semaine, par jour, par mois, ce que c'est. Et après, ça deviendra payant, l'accès sera fermé si on voit plus du nombre d'articles qu'ils ont autorisé à donner, à donner gratuitement.
Donc, sommes bientôt en 2010 et News Corp découvre le cookies.
Bah, c'est sûr que c'est... Moi, je pense qu'il va y avoir un petit peu plus que ces technologies basiques.
Ah oui, j'espère bien, sinon ça net, va être hein. Réglé. Non, ça va être un filtrage par IP, voilà.
Le truc sans doute, mais le fait... Ce qui est plus significatif encore, c'est le fait que Google, finalement, se soit dit « Oula, si Murdoch commence à nous faire un petit caca nerveux, il faut peut-être y faire attention et essayer de trouver une solution aujourd'hui, parce que s'ils partent chez Bing ou Dieu sait où, ça va nous faire une baisse de trafic à nous. » Et ils n'ont pas du tout cette arrogance qu'on aurait pu leur prêter, où ils auraient pu dire « Oui, bon, bah, si Murdoch veut faire sa tête de cochon, bah, qu'il aille dans son coin, et nous, on s'en fout, on est Google, on n'a pas besoin d'eux. » C'est à la fois surprenant et pas surprenant, parce qu'on se doute que Google ne peut pas se passer des sources d'informations majeures, mais le fait qu'il ne se soit pas embarrassé de se dire qui a raison, qui n'a pas raison, quel business model est le bon, de quelle manière il faut procéder, et qu'il se soit dit, bon, on a un problème, essayons de le résoudre de la manière la plus cohérente possible.
Qu'ils l'avaient avec quasiment tous les magazines, et qu'ils l'ont eu en Europe, qu'ils l'ont eu partout, c'est vrai qu'il fallait trouver une solution quand même.
Ouais. À mon avis, la solution, elle était pensée avant que les problèmes se posent, en fait.
Tu penses qu'ils avaient ça dans leur sac à dos et qu'ils l'ont sorti quand les problèmes sont arrivés ?
Bah oui, très clairement. Enfin, pour avoir réagi aussi vite, je pense qu'en fait c'était déjà une solution qui était à l'étude et ils attendaient simplement le moment opportun pour la sortir. Surtout, ils n'allaient pas la proposer eux, hein, ça c'était évident. Sinon, en termes même d'image, eux proposer la gratuité de l'information, enfin liberté d'accès à l'information et tout ça, eux ne pouvaient pas se permettre de le proposer. Ils ont attendu vraiment que les ennuis arrivent, ce qui a été le cas. Hein. Et puis surtout, il fallait qu'un grand groupe tape sur la table. C'était pas, enfin, on peut pas imaginer ça avec juste Libération chez nous, par exemple.
C'est un exemple, hein, mais... Oui, non, mais t'as tout à fait raison. C'était effectivement Ouais, pardon, vas-y.
Ouais, donc à mon avis, c'était préparé d'avance, quoi. Voilà, c'est... Et ils ont attendu que, justement... Parce que du coup, qui passe pour le méchant dans l'histoire ? C'est pas Google, hein. Google fait que se plier, entre guillemets, aux exigences de Murdoch, mais... Et du coup, ils passent complètement pour ceux qui ont trouvé une solution, finalement, là, qui fait moins mal au portefeuille des utilisateurs.
Oui, et puis je pense qu'avec un service comme ça de rétribution, de clics, de machin, ils vont trouver des petits accords. Faut pas...
C'est possible aussi, oui. Mais c'est vrai que cette manière de procéder me fait penser un petit peu au problème qu'a eu le Kindle à l'époque, avec la question de la lecture, vous savez, ce système de text-to-speech, donc de la lecture de livres par voie d'ordinateur, hein, comme on connaît, par voie synthétique, qui était activé sur le Kindle, ou du moins... qui était qu'ils avaient activé par défaut sur le Kindle, et ils savaient que ça allait poser des problèmes avec les éditeurs. Amazon savait que ça allait poser des problèmes avec les éditeurs qui eux veulent vendre de l'autre côté leurs livres audio, et ils ont attendu que les éditeurs disent bah non, ça va pas du tout, nous on veut pas que tous les livres soient lisibles par défaut automatiquement sur le Kindle. Et là ils sont arrivés en une semaine comme si de rien n'était, en disant ah bah oui, bah finalement on peut faire en sorte que ça soit activé ou désactivé selon les désirs de l'éditeur. Et c'est arrivé en deux secondes, tellement vite qu'on s'est dit c'est pas possible, ils l'avaient déjà dans leur besace. Et de la même manière, ce sont les éditeurs qui sont passés pour des pourris, et Amazon et Jeff Bezos sont passés pour les sauveurs, en disant bon, vous inquiétez pas, on va pouvoir.
C'est une technique courante, parce que ça te permet de donner du poids. Si maintenant t'arrives voir les éditeurs en disant on aimerait intégrer une synthèse vocale, oh là là, tu commences à faire des réunions, des machins, tu dois faire des accords, tout le monde veut taper dans la caisse. Si maintenant t'actives un truc, des millions d'utilisateurs l'utilisent. Tu vois un éditeur dire non, on va vous coller un procès, ça c'est une super mauvaise image qu'il donne. Donc le fait de faire un truc, de l'activer, que plein de gens l'utilisent, trouvent ça génial, que tout le monde en parle, et après d'avoir la solution de repli en disant eux ils vont nous faire chier parce que machin ça va pas leur plaire, et de dire c'est bon, vous en faites pas, on a la solution, non seulement tu passes des barrières, et en plus après tu te les fais ouvrir.
Donc c'est un peu trop profond là, j'ai pas compris.
Toute la dernière fois, j'ai raconté un truc avec des barrières.
Tu passes les barrières et tu te les ferais ouvrir. Je comprends.
T'as jamais fait ça au boulot, tu fais un truc que tu sais que si tu le proposes, il sera jamais accepté, tout en sachant qu'est-ce qu'on va te reprocher, puis en ayant déjà la solution. Ce qui fait qu'au final, t'as fait passer ton truc alors que si t'avais demandé à la base, il aurait jamais été accepté.
Moi, j'ai jamais fait ça.
T'as jamais fait ça?
Ah non, mais je ferai jamais un truc comme ça, t'es fou.
Non, mais c'est généralement.
Mais c'est une technique très intelligente, effectivement. Et la preuve, ça fonctionnait avec le Kindle. Et si Cédric a raison, bah, ça a effectivement fonctionné avec Google News également.
Bah oui, déjà, moi, c'est comme ça que je le perçois en termes d'image. Je me dis, bah tiens, ils font chier quand même, News Corp. Enfin, voilà quoi.
Ouais. Tout à fait. Un autre truc qui montre l'attention que porte Google aux moindres détails de ses sites, c'est un truc qu'ils sont en train d'expérimenter sur YouTube. Et là encore, je me tourne vers Mathieu qui nous a présenté cette news. C'est YouTube poids plume.
Alors, moi, je n'aurais pas dit comme ça, j'aurais dit plume dans le...
plume dans le derrière.
C'est pas le même, même site.
Ah, d'accord, ok.
Ça finit aussi en tube, mais c'est pas le même site.
Ok.
Et donc, YouTube poids plume, c'est quoi ?
C'est génial.
Je t'avoue, c'est
génial. On peut passer à la suite.
Ok. Je suis allé le regarder et je t'avoue que j'ai pas non plus été complètement émerveillé. Mais peut-être que j'avais pas ton explication.
Tu reviens dans les années. C'est YouTube comme s'il avait été dans les années 90, quoi. En gros, tu vas sur youtube.fr ou .com et tu vas tout en bas à droite et t'as un tout petit lien qui s'appelle TestTube. Et quand tu vas dedans, c'est comme le Gmail Labs où tu peux activer des fonctions en cours de développement, t'en as une petite dizaine je crois, donc tu peux tester plein de trucs, et dont le poids plume, j'arriverai pas à dire ce mot en anglais,
Feather,
voilà, tu peux activer la bêta de Feather, Et en gros, dès que tu vas regarder une vidéo, elle va t'apparaître dans la page de YouTube comme tu la connais actuellement, mais complètement dépouillée. C'est-à-dire, tu vas avoir juste la vidéo dans un player allégé, en qualité standard.
La vidéo en ASCII, tu sais. Super allégé. Un GIF
ça
animé, en fait.
Ça existe en plus, hein, ça existe, genre de lecteur sous lecteur vidéo.
Un GIF animé, en fait, c'est super léger. Ouais.
Et donc, tu vas avoir un player allégé, une qualité standard. Tu auras aucun AJAX, aucun rien. C'est vraiment du HTML, mais bête et méchant.
Donc, une page web super simple, quoi. Mais quel est l'intérêt?
Super simple. Bah, quel est l'intérêt? C'est le poids plume. Moi, quand je vais sur YouTube comme ça, c'est instantané. J'ai aucun chargement, j'ai rien. Bon, tu me diras, j'ai la fibre. Voilà, je l'ai placée.
Salopio.
Moi, je l'ai demain.
C'est vrai.
Salopio.
On est deux. Et tu vas voir, ça change la vie. Et donc, en fait, toutes les vidéos, moi, généralement, quand j'allais sur YouTube, t'avais un petit temps. Là, ça se charge à la vitesse, mais c'est instantané. T'as l'impression que YouTube est dans ton ordinateur. T'as l'impression d'être en local.
C'est un petit peu comme. C'est un petit peu comme. Comme Spotify, mais pour la vidéo, quoi.
Ouais, voilà, ça te déplace à une vitesse rapide, la page, elle se charge en moins d'une seconde. J'ai même essayé d'une connexion assez pourrie sur un ordinateur vraiment pourri, bah, ça se charge en moins de 2-3 secondes, enfin, c'est d'une rapidité, c'est extrême. Et pour les gens, enfin, moi, je préfère, je sais qu'il y a d'autres personnes qui aiment aller sur YouTube pour voir des vidéos en HD, avoir les commentaires, les notes, l'Ajax, plein de trucs qui mais là, tu te rends compte qu'avec ça, ils vont à l'essentiel. T'as ta vidéo, elle se charge en moins de 2 secondes.
D'accord. Bon, bah écoute, même si c'est pas forcément pour tout le monde, si tout le monde sera pas intéressé, c'est.
Ça peut intéresser pas mal de gens, parce que quand tu vas sur YouTube et que tu veux juste voir la vidéo et pas avoir tout le truc autour.
Bah, non, c'est sûr. Mais au-delà de ça, moi je pense que c'est intéressant que Google teste encore ce genre de choses et continue à expérimenter dans ce genre de domaine. Il est évident que ça peut amener à des choses intéressantes à l'avenir, quoi.
Il y a une vraie application pratique déjà, hein, tous ceux qui ont des connexions internet pas terribles, quoi. Voilà, ça c'est l'application de base, hein, pour cette version de YouTube.
Totalement.
Donc si vous avez si vous écoutez le rendez-vous tech sur une connexion modem qui fait voilà. Vous pouvez aller sur YouTube en poids plume, YouTube Feather.
Et ça me permet de faire un petit pont, c'est que quand je vois Google sortir semaine après semaine des technologies comme leur nouveau protocole pour accélérer Internet, le DNS dont on va parler dans 30 secondes, les pages poids plume, les transitions quand tu vas sur Google, t'as rien et que la souris elle commence à bouger, t'as les menus qui apparaissent autour, et que j'ai la fibre depuis une semaine, je comprends en fait ce qu'ils essayent de faire. C'est-à-dire que
nous on comprend pas bien là, mais
actuellement quand tu utilises Google Documents, bah c'est forcément plus lent qu'un Word ou qu'un OpenOffice ou qu'un Pages.
Ouais.
D'accord. Quant à la fibre et que tout est instantané, que quand tu télécharges un fichier, le temps que tu choisisses l'emplacement où tu veux le télécharger, il est déjà téléchargé. Que quand tu ouvres, que quand tu lis une vidéo YouTube en HD et que tu balades à l'intérieur aussi rapidement qu'une vidéo dans ton ordi, que tu ouvres un Google Document, c'est qu'il s'affiche en moins de 0,5 secondes, mais en entier, le document plus le logiciel. Tu comprends, sans qu'il y ait de nouvelles technologies, avec les technologies actuelles, tu comprends en fait tout ce qu'ils essayent de faire. Ils savent très bien que d'ici 5 à 15 ans, quand il y aura beaucoup plus de fibres, quand les connexions seront plus rapides, quand il y aura l'HTML5, et plein de technologies qui vont permettre d'avoir du contenu, si t'es déconnecté, c'est pas grave, ton contenu s'affiche quand même, tu peux accéder à tes documents, plein de choses. Tu comprends, tu sais qu'en fait, eux, ils savent que d'ici 15 ans, ça va devenir le Microsoft dans le domaine de l'informatique.
Attends, je vais faire siffler les oreilles de Yann là. Mais quelque part, bouge pas. Attention.
Yann, maintenant, nous allons parler du cloud. Tu vas kiffer.
Bah, c'est ça en fait. Hein. C'est ça, exactement. En fait.
Et si tu peux tester chez quelqu'un la fibre quelques heures, tu vas te rendre compte qu'en fait, que quand tout est instantané et que quand on aura des technologies, je parle de l'HTML5, qui permettront plein de choses comme de pouvoir visionner son contenu en mode déconnecté ou d'avoir ça stocké en local sur l'ordi, d'avoir une mémoire tampon qui va faire que quand tu vas te reconnecter, ça va tout mettre à jour. C'est énorme.
Bon,
et
écoute,
les gens qui peuvent tester la fibre, faites-le.
Ça fonctionne sous Windows 7. Aussi vite, je veux dire.
parle du côté obscur de l'informatique.
Chacun a sa boîte à son. Bon, ouais, moi, la conclusion de cette histoire, c'est que je vais monter dans le prochain TGV et je débarque à Lyon chez Mathieu demain matin.
Ou à Bordeaux, hein.
Ou à Bordeaux.
Bon, en fait, il y a que moi qui n'ai pas la fibre, quoi.
Et
c'est scandaleux.
À Paris, c'est ça le pire.
Mais là où je sens que effectivement les oreilles de Yann sont en train de siffler, quand il écoutera cette émission, il va bouillir. Et je vais prendre sa défense en quelque sorte, parce que vous êtes bien gentil avec votre fibre, mais comme on le dit, tout le monde n'a pas la fibre et on n'y est pas encore du tout.
230 000 à avoir la fibre.
Oui, non, mais c'est rien du tout encore.
3,3 millions de foyers raccordables.
Voilà. Bon. En fait, c'était pas ça qu'il fallait dire, c'était que nous, on parlait du futur dans 5, 10, 15 ans.
Mais effectivement, ouais. Si déjà à l'heure actuelle, avec les technologies qui sont pas forcément prévues pour ça, tu as déjà un résultat comme celui que tu peux tester quand tu as la fibre, tu te dis, mais quand d'ici 5 à 15 ans, mais c'est fini, tu vas avoir un. Ça, disons que le logiciel en dur dans l'ordinateur et le logiciel en cloud, ça va faire 50-50. Hein.
Ouais. Au minimum. Moi, j'y crois aussi. Mais...
Et pour rebondir sur la fibre très rapidement, Bouygues Télécom s'est associé avec Numericab pour utiliser son réseau fibré et proposer une offre de fibre aussi. Donc bon.
Alors voilà pour la petite explication, c'est que c'est Darty et Bouygues qui utilisent le réseau Completel pour la DSL.
Oui, c'est ça.
Bah comme Completel est une société sœur de Numericab, forcément.
Exactement.
Non, il fallait bien faire le pont.
D'accord. Moi, ce que je sais, c'est que chez moi n'est pas encore raccordé à la fibre Free.
C'est pas grave, SFR a des offres par satellite qui peuvent te correspondre.
Le salaud. Parle-nous plutôt de la DNS Google, tiens. Explique-nous ce que c'est qu'une DNS pour ceux qui ne comprennent pas.
Oula, alors là, on va de nouveau parler de Google qui a proposé son propre serveur de DNS. Voilà, alors le DNS, qu'est-ce que c'est ? Bah, quand tu tapes frenchpin.com, ton ordinateur envoie une requête au serveur de DNS de ton opérateur Orange, Free, en lui disant bah, frenchpin c'est stocké sur quel serveur ? Et bah, le serveur de DNS va lui dire frenchpin c'est stocké sur le serveur qui a le numéro 92.128 machin, il va donner une adresse en numéro, voilà, il va donner le numéro de téléphone du serveur.
Et ouais, parce qu'en fait les serveurs véritablement sur internet, ils sont pas identifiés par les noms qu'on leur connaît, par www.google.com.
En fait.
Ouais, c'est ça.
Ils ont un numéro de téléphone, et puis t'imagines si on devait retenir les numéros de téléphone de chaque site, ça ferait un peu. Donc on a inventé les noms de domaine en disant voilà, quand les gens tapent google.fr, ça va demander au serveur de DNS du fournisseur le numéro de téléphone du serveur où le site Google est stocké, et puis hop, t'es mis en relation. C'est aussi simple
donc,
que ça.
Au jour d'aujourd'hui...
3615 Google.
Merci Big Papou sur la chatroom, ça nous fait bien rire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si je veux appeler Mathieu Blanco sur mon téléphone, je regarde le nom Mathieu Blanco dans mon carnet d'adresse et je trouve son numéro de téléphone. Bah, voilà. Un DNS, c'est le carnet d'adresse du téléphone, et tous les fournisseurs d'accès, donc Free, Orange, etc., ont voilà. Leur propre DNS.
Ils ont plein de serveurs, ils ont plein de carnets téléphoniques pour répartir la charge. Et ce qui est un petit peu, comment dire, ce qui pose parfois problème, c'est ce qu'on appelle la propagation des DNS. C'est-à-dire, imaginons demain, tu dis, je veux ouvrir un nouveau site, topsecret.com. N'essayez pas, c'est déjà pris. tu vas aller chez un hébergeur, tu vas dire voilà, je veux topsecret.com. L'hébergeur va dire voilà, bah, ça coûte 5 euros par an. Tu vas payer et tu vas devoir attendre 24-48 heures le temps que les milliers de serveurs, les milliers de carnets d'adresses de tout le monde dans le monde apprennent que topsecret.com, ça doit rediriger vers tel numéro. Donc c'est la propagation des DNS, ce qui fait que des fois quand tu mets à jour ou que tu changes de serveur, les gens des fois sont redirigés vers l'ancien serveur, des fois vers le nouveau, parce que certains ont des carnets adresses à jour, d'autres pas, donc ça fout un peu la pagaille. Et comme plein de gens, comme il y a plein d'intermédiaires, Google dit, bah voilà, nous comme on est sympa, comme on n'est pas le diable, et comme on veut rendre Internet super rapide, on propose de décharger cette tâche qui est assez lourde à gérer, qui est même très très lourde, en proposant, vu qu'on a plein de serveurs partout dans le monde, nos propres serveurs de DNS. Donc si vous voulez avoir un carnet de téléphone internet mis à jour, et bien vous devez faire telle petite manipulation dans votre ordinateur et vous accéderez au carnet d'adresse des serveurs de Google. Et puis là tu
Mais
sens
quel
que
intérêt, en fait
quel intérêt quel intérêt, c'est vu l'infrastructure de Google, c'est censé rendre les choses plus rapides, vu qu'en plus ils déploient des nouveaux protocoles en test, ils veulent accélérer le web et que les adresses soient résolues beaucoup plus rapidement, que quand tu mets à jour, quand quelqu'un qui fait un site met à jour ses DNS, que ça se propage chez une seule personne sur tous ses serveurs et pas chez 40 000 intermédiaires. Il y en a qui mettent à jour tous les 48 heures, d'autres 24, d'autres 6 heures. Donc en gros, ils veulent décharger, et puis c'est un énorme boulot, hein, punaise, gérer les DNS de chez Orange ou de chez Free. Il y a de sacrées
têtes. Disons que pour les fournisseurs d'accès, je comprends, ça veut dire qu'ils risquent d'avoir moins de problèmes à mettre à jour leur serveur. Mais pour Google, quel est l'intérêt alors ?
Mais contrôler le web, tout simplement. Ah. C'est qu'après, c'est eux qui sont gardiens des carnets de téléphone et des numéros de tout le monde. Donc là, tu te dis, d'un côté, ils veulent améliorer le web en le rendant plus rapide, en déchargeant cette tâche ingrate, coûteuse, qui tu peux pas monétiser, que les fournisseurs d'accès et plein d'autres gens sont obligés de faire. Et en même temps, tu dis, ouais, si c'est Google qui a tous les carnets de téléphone, qui met à jour, qui fait les services, qui fait le moteur de recherche et tous les services autour, tu vois, quand même, là, ça devient plus qu'une œuvre. Ouais. Hein, ça
je devient
l'accès à Internet. On va plus appeler ça Internet, on va appeler ça Google, quoi, Google Net.
Je crois que c'est la vision un petit peu théorie du complot quand même, de dire c'est pour contrôler Internet. Moi, ce que j'y vois, c'est le fait de savoir qui appelle qui, en quelque sorte, qui va aller sur quel site, de manière encore plus précise que aussi, ça n'était le cas avant. Donc ça les aide à cibler leur publicité.
En plus, c'est à tous les niveaux. Hein.
Moi, j'ai deux choses à dire. Ah. Je vais commencer par la première qui concerne les DNS directement. Et la deuxième qui concerne Google. Les DNS, je vous donne un exemple très très bête. Il n'y a pas si longtemps que ça, SFR, a changé les DNS par défaut de Google. Donc moi, étant abonné SFR, dès que je tapais google.fr ou google.com, dès que je tapais une mauvaise adresse dans mon navigateur, automatiquement, il m'ouvrait normalement Google. Et à la place de Google, j'avais une page Google, mais par SFR, avec une publicité SFR magnifique qui me proposait d'accéder à plein d'autres services et tout ça. Et il y avait effectivement le moteur de recherche Google au milieu, mais qui était complètement rebrandé. Et juste en fait parce que ils avaient changé la résolution DNS, ça a fait un petit tollé. Ça a duré une semaine seulement. Ils l'ont retiré ensuite.
SFR peut, en modifiant des DNS, ton opérateur peut prendre le contrôle de là où tu vas.
Exactement, c'est-à-dire que comme j'utilisais le carnet d'adresse de SFR en tant qu'abonné SFR et que c'était celui par défaut, automatiquement en fait il me redirigeait vers sa page à lui.
Donc voilà, t'allais plus sur Google, le vrai non. Google, mais t'allais sur le Google de SFR quand tu allais sur Google.
Exactement.
C'est un super exemple, c'est comme si moi maintenant que je suis abonné à la fibre, si je tape numéricable.fr, je vais pas accéder au même site que toi Patrick qui va te proposer les offres, je vais accéder à mon espace client.
Et oui, d'accord. Parce que tu passes par leur DNS.
Parce que je passe par leur carnet d'adresse. Ils ont dit quand un abonné tape numérica.fr, il atterrit directement dans son service client.
D'accord. Alors c'est
une utilisation intelligente. Ouais.
Voilà, c'est super DNS. Intelligent.
Mais il y a une utilisation dangereuse qui est vraiment, si demain l'Adopi décide de demander à tous les fournisseurs d'accès de rediriger les DNS d'un site du genre Pirate Bay.
Voilà.
Tous les abonnés basiques qui ne savent pas changer les DNS par défaut de leur machine vont être redirigés vers iTunes par exemple.
Et là, le service de Google sera super utile. Parce que si tu dis, moi j'utilise le carnet d'adresse de Google, ils ont tout partout dans le monde et tu ne seras pas.
Et eux sont censés ne pas filtrer, sauf peut-être en Chine.
Donc,
la deuxième remarque sur Google, je l'ai oubliée.
Mais elle était super intéressante. Pendant que tu y réfléchis, je résume un petit peu la chose que vous avez expliquée. C'est-à-dire que si demain Adopi ou n'importe qui décide, tous les fournisseurs d'accès français doivent faire en sorte que quand on tape piratebay.com ou .org, je ne sais plus lequel c'est,
ça redirige vers une page, vous avez été bloqué de ce site par la loi, machin, si ça.
Voilà, donc si on n'a pas d'autres carnets d'adresse, on ne pourra plus jamais accéder à Pirate Bay, à moins la
ça a déjà été fait, c'était où, en Suède, où ils ont bloqué The Pirate Bay, non c'était en Suède ou en Italie, ouais, c'était un des deux, je crois même les deux, ils ont bloqué l'accès à The Pirate Bay ou un site de téléchargement de fichiers de torrent. Ça a duré 48 heures avant que les gens comprennent comment contourner cette protection. Donc il ne faut pas se leurrer, Internet
mais donc au final... Pardon, vas-y.
Pardon. Internet étant mondial, même si ça devait être fait, ce serait vraiment malheureux pour la liberté d'expression, pour voilà, tout ce que Internet représente, mais ce serait contournable. Je veux dire, même l'expliquer à quelqu'un par téléphone comment changer son carnet d'adresse de DNS, que ce soit Windows XP, 7, macOS, Linux, ça prend 1 minute 30.
Oui, ouais. C'est clair.
Mais tout de même, c'est tout de même.
Mais ce serait tout de même un acte, comment dire, ce serait vraiment. Ce serait un.
Mais donc, ça veut dire que dans ce cas-là, le serveur de DNS de Google aide. Donc,
oui, dans ce cas-là, c'est une super aide. Parce que, comme tu l'as dit, comme Cédric l'a dit,
c'est une
Google
alternative.
Est toujours dans son esprit, sur le web. On ne filtre rien, c'est le web, c'est la liberté, machin.
Oui. Sauf en Chine.
C'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est bien de le rappeler. Hein. Il faut pas. Enfin, c'est quelque chose d'important à rappeler, même
et,
si c'est
et
pas.
Et j'ai retrouvé ce que je voulais dire sur Google.
Vas-y.
Ça concerne un peu aussi ça dans la collecte d'informations via le DNS. En fait, on a vu aujourd'hui la news, c'était Google Analytics interdit en Allemagne. Parce qu'en fait, a priori, ils enregistrent des informations comportementales, en fait, c'est exactement ce qu'ils font, sans l'autorisation des utilisateurs. Ça va à l'encontre de la CNIL allemande, qui doit s'appeler la CNIL.
Il
doit y avoir 7 lettres de plus, à mon avis.
Ouais, je pense, oui. Qui justement a déclaré totalement illégale cette collecte d'informations, en fait. Voilà.
D'accord.
Ouais. Et donc ça montre bien que voilà, on est dans est-ce que Google a le droit ou pas de collecter ces informations, sous quel prétexte. Bon,
pour Google, ça me paraît un petit...
c'est juste un cookie à effacer, hein.
Ouais. Bon. Ça me paraît un petit peu sévère quand même, vu ce que fait Google Analytics, mais bon.
Oui. Et même oui, pas, oui, en Allemagne, ça s'appelle la BDN, la Délégation Fédérale de la Protection des Données.
D'accord. Mais... Oui, c'est ça.
Ah oui, mais les Allemands contractent plusieurs mots en un seul mot. Ouais,
on sent que tu as la fibre, Mathieu, parce que tu as réussi à trouver ça sur Wikipédia en
moins
de temps.
Et ça a même pas fait sauter le son Skype.
Même pas du tout.
Pas du tout.
Dernière nouvelle.
Si tu veux le dire, c'est le Bundesnachrichtendienst, en un seul mot.
les germanophones de la terre entière se sont mis à pleurer.
Voilà, ils ont perdu tous leurs cheveux. Il y a quelqu'un qui a dit dans la chatroom un truc pas mal, c'est Stanael, c'est de toute façon un proverbe dit, en informatique, pour l'impossible, attendez 48 heures.
C'est ça.
Pas mal du tout, oui, effectivement. Alors, dernière info dont on voulait vous parler, c'est le Emergency Broadcast System sur Xbox.
C'est génial.
Alors, de quoi il s'agit ? En fait, vous savez que aux États-Unis, comme j'imagine en France aussi, hein, il y a un système qui s'appelle le Emergency Broadcast System, qui est donc un système de diffusion d'urgence qui interrompt les programmes télévisés dans tout le pays si un message extrêmement important a besoin d'être diffusé à toute la population. Par exemple, imaginons qu'il y ait une attaque nucléaire ou une invasion d'aliens ou ce genre de choses.
Ou une invasion de zombies.
Ou une invasion de zombies, par exemple.
Ah, j'aimerais bien voir notre président nous annoncer qu'il y a une invasion de zombies.
Et ben donc effectivement il y a possibilité d'interrompre tous les programmes. Il y a un système qui est en place qui interrompt tous les programmes et qui diffuse.
Quand tu vois le tarif qui coûte, waouh.
Ah bah écoute, je ne sais pas, mais
ça se compte en millions et ça ne sert jamais, mais il faut le faire. C'est un truc assez hallucinant.
Et donc
t'imagines si tous les zombies du Sénat s'échappent. Enfin,
rattrapez-les.
Et donc, ce système est en train d'être adapté aux consoles de jeux. Alors, la Xbox en premier, mais à terme, ça serait a priori adaptable à toutes les autres consoles. Et ça pose une question qui est intéressante, c'est est-ce que l'État ou est-ce que certaines autorités ont le droit de rentrer dans ma console pour en modifier le fonctionnement pour faire en sorte que ce genre de choses soit possible.
Si c'est bien défini, moi je trouve ça génial, dans le sens où tu définis une liste de choses, par exemple une attaque nucléaire, un risque sanitaire d'alerte niveau ultra élevé, un départ de feu ou machin. Si en plus t'as tout ce qui est géolocalisation, tu t'imagines pour les incendies, les trucs importants, et que tu as accès à des réseaux comme l'Xbox, les Wii, Twitter, Facebook, machin, tout ça. Et tu dis par exemple dans telle zone il y a un truc.
Ton téléphone
et tous ces trucs, je sais pas moi, c'est génial.
Là, je peux te dire que Jean-Pierre Trébert, il aurait pas pu traverser un centre commercial avec toutes les Wii qui affichent sa photo partout.
Non mais voilà, il y a quand même, il y a Eddie dans la chatroom, Eddie Boels, qui dit la chose à laquelle tous les joueurs pensent, c'est mais attends, ça le fait même si je suis sur un boss, même si je suis à la fin d'un niveau. Attends, il y a des limites quand même. Mais non. Bref.
Non mais c'est vrai, il y a des limites à pas dépasser.
Ouais,
des...
c'est vrai.
Non mais j'imagine le truc, t'es géolocalité. Au moins une personne au milieu d'un magasin qui est géolocalisée sur son iPhone et qui reçoit un tweet d'une manière officielle comme quoi il y a une alerte au gaz.
Ouais, bon, je crois que c'est pas encore les géolocalisés sur, et ça ne touche pas Twitter, ça touche pas les téléphones.
Voilà, mais c'est
uniquement sur les ça s'affiche en fait sur la télé au lieu que ça soit quand vous regardez la télé, c'est quand vous êtes en train de jouer à votre console. Donc c'est pas non plus qu'il y a une sorte de message transmis par satellite qui t'arrive sur la tête directement pour te dire ce qu'il faut faire, quoi.
Mais tu es géolocalisé avec ton adresse IP hein, sur ta console.
Ah ouais.
Oui, bien sûr, mais je crois pas que ça soit prévu pour être géolocalisé. C'est uniquement pour pouvoir interrompre tous les programmes. C'est moi qui pars
un peu. Non, mais c'est dans l'idée, pouvoir afficher un message. À partir du moment où c'est bien défini, où c'est clair, t'as le droit de le faire que quand il se passe ça, ça ou ça. Moi, je trouve ça génial. Parce qu'avant c'était quoi ? Avant, tout le monde avait soit accès à la radio et après la télévision, donc alerter les gens d'un danger ou de quelque chose de vraiment d'importance nationale ou mondiale, c'était assez simple. Maintenant, l'attention est disséminée un peu partout. Il y a des gens qui regardent la télé, qui écoutent du podcast, qui écoutent leur musique.
Attends, on m'interrompt pas mon podcast, moi. Hein. Moi, je m'en fous qu'il y ait des zombies au Sénat. On m'interrompt pas mon podcast, rien à foutre, moi.
Bon. Donc, je trouve ça super qu'il y ait une première approche au moins sur les consoles et puis qu'après ils développent le truc et qu'ils comprennent l'importance des réseaux sociaux de là où toute l'attention des gens est disséminée actuellement.
C'est vrai. Écoutez, on va conclure ce round de nouvelles avec une seule petite rumeur avec l'introduction de ce jingle.
Ah, je sais laquelle.
La séquence des rumeurs à la con. À la limite, on aimerait bien en parler un petit peu quand même.
Bon, il y en a qu'une seule, c'est évidemment celle qu'on ne pouvait pas ignorer. C'est le mot de 2009. J'en entends qui se marre déjà. Je sais pas ce qui se passe, Cédric. T'as un problème avec ta connexion.
Non, 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 mais je rigole pour le mot de l'année, quoi.
Alors attendez, on va voir si la chatroom peut trouver quel est le mot de l'année et pourquoi ça nous plaît tellement.
Moi, je peux faire une proposition.
Vas-y.
C'est le net, puisque Jacques Séguéla, il fait que répéter le net, c'est ça, le net. C'est... Il dit pas internet, il dit toujours le net. Et donc, je pense que c'est le mot de l'année.
Non, je crois que la chatroom. A vu plus juste que toi, évidemment, c'est Twitter. Je me souviens encore des débuts de l'émission quand on expliquait ce que c'était Twitter et qu'on était en train de dire... Ah ouais, non mais c'était il y a plusieurs mois déjà. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui écoutent l'émission peut-être depuis le début, qui n'avaient jamais entendu parler de Twitter à l'époque, qui ont entendu ça sur l'émission, la première ou la deuxième, et qui se sont dit mais c'est quoi ce truc bizarre qui sert à rien. Bon, ils savent peut-être toujours pas à quoi ça sert, mais au moins je suis sûr qu'ils en ont entendu parler partout et que ça a prouvé à quel point nous étions des précurseurs, n'est-ce pas? Bon, j'ai réussi à
Patrick
transformer
le visionnaire. T'as encore la définition du Web 3 à valider.
Ouais, bah, c'est pas encore fait, mais on y est bientôt. Ouais, j'ai réussi à transformer cette news.
Je pense que Google arrivera un jour à faire quelque chose, mais Ah, peut-être. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Peut-être que je suis visionnaire, hein, je sais pas.
Ouais, mais c'est quand même pas Twitter. Hein. Ah oui, tiens, à propos, je signale ça. Je dois retrouver la personne qui m'en a parlé. C'est Elise FR sur Twitter, justement, qui m'a dit que Google avait intégré les résultats en temps réel dans ses résultats de recherche et dans les résultats de Twitter. Il y a aussi Facebook et d'autres. Mais ça y est, c'est intégré à Google, donc on savait que ça allait venir.
Et c'est bien filtré dans la nouvelle interface qui
va arriver l'année prochaine. J'ai pas réussi à l'activer en fait.
Du, du site dont je t'ai parlé, auquel je participe, il y a l'explication dedans.
Bah ça marche, tu nous enverras ça. Et donc oui, donc ça y est, Twitter est véritablement le mot de 2009, et on parle pas de mots en général uniquement dans le domaine de la technologie. Il était en concurrence avec Obama, H1N1, Stimulus, Vampire, etc.
Ah, Vampire, on y revient.
Ouais, oui, exactement. Et donc c'est le Global Language Monitor. Non, mais c'était international.
C'est le Global. C'est moins international, un truc comme ça.
Bref, voilà, c'est les données du Global Language Monitor, et donc c'est le mot de l'année.
Peut-être que d'ici 5 ans, ça va arriver dans le Larousse et dans le Robert, et d'ici 12 ans, l'Académie française va trouver une traduction.
Comment est-ce que ça sera iTablet ou un truc comme ça, non?
Possible, ouais. Ouais. On verra ça a priori avec une présentation d'Apple courant janvier, on va dire. On y reviendra. Écoutez, voilà, c'est tout pour nos nouvelles et nos rumeurs à la con. Et on va passer à l'interview dont je vous parlais tout à l'heure, donc l'interview de Jean-Jacques Sahel. Et je vous dis, je vous parle d'un lien tout de suite et je vous en reparlerai juste après l'interview parce que c'est quelque chose de très important. L'une des choses dont on a parlé, c'est la neutralité du net. Et il y a une pétition sur le net qui est ouverte depuis quelques temps, que je vous encourage à aller signer pour montrer votre soutien à la neutralité des réseaux ou à l'internet ouvert, comme le dit Jean-Jacques Sahel. C'est un moyen de montrer votre soutien et de montrer que la chose est vraiment importante, et je vous encourage non seulement à aller la signer vous-même, mais également à expliquer à vos amis ce qu'est la neutralité du net, hein, on en a déjà parlé plusieurs fois, donc je reviens pas dessus. Expliquer à vos amis, les encourager à aller signer eux aussi, c'est vraiment quelque chose d'important, et je pense que c'est uniquement en parlant autour de nous et en faisant connaître la nature du problème qu'on réussira à repousser le spectre de la commission, pardon, du paquet télécom qui pourrait menacer cette neutralité du net et cet internet ouvert. Donc, sans autre forme de procès, je vous livre cette interview que j'ai fait de Jean-Jacques Sahel un petit peu plus tôt dans la journée, et on se retrouve de l'autre côté. Alors, bonjour Jean-Jacques et merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté cette interview. Comment allez-vous?
Ça va très bien, merci Patrick. Bonjour.
Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter un petit peu pour nos auditeurs?
D'accord, je suis donc Jean-Jacques Sahel et je suis en charge de toutes les relations gouvernementales et réglementaires pour Skype, donc la société de communication peer-to-peer. Et je couvre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.
D'accord. Donc, la raison pour laquelle je pensais qu'il serait intéressant de vous parler, hormis le fait que vous êtes quelqu'un de très intéressant déjà à la base, c'était vos relations principalement donc avec l'Union européenne et les problèmes que l'on connaît en ce moment avec les questions de neutralité du net. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quelle est la situation aujourd'hui au niveau européen? Parce que je sais qu'on a du paquet télécom. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que le paquet télécom et quelles sont les implications pour la neutralité du net?
Alors, le paquet télécom en jargon européen, c'est tout simplement l'ensemble de directives européennes, donc de lois européennes, qui ont trait à la réglementation des télécommunications en Europe. Dans le détail, donc, ça couvre beaucoup de choses, de comment les sociétés télécoms sont notifiées avec les autorités de réglementation, jusqu'à comment le spectre est divisé, etc., etc. C'est censé ne toucher qu'à vraiment l'infrastructure télécommunication, donc les réseaux, si vous voulez. Mm-hmm. Mais bien sûr, puisque surtout de nos jours, l'importance de l'infrastructure télécom, c'est surtout dans le fait que ça nous permet à nous tous, citoyens ou entreprises, d'accéder à l'Internet et aux services, aux contenus, aux applications Internet. C'est notamment pour cela que quand ces directives européennes ont été revues au courant des deux dernières années, le sujet de la neutralité des réseaux est devenu assez important.
Donc ça veut dire que de fait, quand on régule les infrastructures télécom, on régule, je fais un raccourci un petit peu rapide, mais on régule Internet en fait.
On réglemente l'accès à l'Internet, ouais. ce qui est une différence importante, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas réglementer ce qui se passe sur l'Internet, mais comment l'accès à l'Internet est fourni.
Ce qui est le cœur des problèmes de la neutralité du net, en fait.
Exactement, exactement. Et donc, en fait, si on rentre dans la logique de neutralité des réseaux, on n'a pas attendu la revue de ce paquet télécom, comme on dit, pour avoir des problèmes, puisqu'en fait, Skype a eu des problèmes en fait depuis plus ou moins sa naissance. C'est normal, c'est une innovation qui est gênante pour certains, ou que certains trouvent gênante. Et donc, on a vu des opérateurs dans le passé déjà s'amuser avec le trafic Skype. Je peux vous assurer notamment que la qualité des appels, normalement, est de très, très bonne qualité, puisque là, par exemple, on fait l'interview sur Skype, c'est pas trop mal. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes, et je peux vous dire que c'est de moins en moins la faute des logiciels et de plus en plus la faute des connexions en elles-mêmes. Donc, oui. Dans le détail, ce qui se passe en Europe, on va prendre le cas de la France, puisque c'est un cas malheureusement assez facile. Mmh. En France, sachant que bon, les gens commencent à vouloir accéder à l'Internet à partir de leur mobile ou à partir de clés 3G de plus en plus, notamment grâce au début de l'iPhone, etc., si on essaie d'utiliser Skype sur son téléphone portable en France, on est tout simplement interdit. C'est-à-dire, dans les conditions générales de vente, le consommateur, même si on lui dit qu'il achète un forfait illimité Internet, en fait, son forfait Internet est complètement limité, puisque l'utilisateur, s'il cherche dans le détail des conditions de vente, se rendra compte que en fait il ne peut ni utiliser la voix sur IP ni utiliser le peer-to-peer, et dans certains cas il peut pas utiliser les newsgroups, il peut pas utiliser la vidéo streaming.
Oui, bah ça, on a eu effectivement le problème ici au Rendez-vous Tech. Déjà, on avait donc Jeff Clavier qui était enfin, généralement, on est avec lui dans l'émission de la Silicon Valley. Ça fonctionne très, très bien. Et là, il était, je sais plus où, dans le Vercors. Il a essayé de nous appeler depuis sa clé 3G par Skype, parce que, comme vous l'aurez compris, on utilise Skype à chaque émission. Et ça ne fonctionnait pas, ce qui était complètement ubuesque, puisque ça fonctionnait des États-Unis et pas de France, simplement à cause de cette clause qui est un petit peu emblématique, en fait, de ce contrôle qu'exercent les fournisseurs d'accès ou les opérateurs de téléphonie sur le trafic Internet. Mais si jamais je veux me faire un petit peu le... Alors, pardon, procédons par étapes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce type de pratique est autorisé, est légal, et comment est-ce que c'est vu par...
Ce type de pratique est, jusqu'à présent, n'était le sujet d'aucune réglementation au niveau européen. Mmh. En fait, la seule réglementation vers laquelle on nous a orienté jusqu'à présent, c'était la réglementation de la concurrence, en nous disant, si un opérateur vous bloque et que vous arrivez à démontrer que, d'une part, c'est un opérateur dominant dans son marché et que, d'autre part, il le fait d'une manière anticoncurrentielle, il vous bloque parce qu'il a des raisons anticoncurrentielles, à ce moment-là, bien sûr, nous pourrons prendre action. Et c'est d'ailleurs ce que je continue d'entendre de la part de certains régulateurs en Europe. Ce qui est assez gênant, puisqu'en fait, c'est pas simplement une question de concurrence. Oui. Dans notre cas, dans le cas de Skype, on peut voir qu'il y a une relation entre le fait que certains opérateurs de téléphonie qui ont aussi un business dans l'accès Internet pourraient vouloir nous faire du tort par rapport à leur business téléphonie en utilisant leur business accès Internet. Donc là, effectivement, il y a un cas. Mais si on regarde plus largement, d'une part, appliquer le droit de la concurrence, c'est très difficile. D'autre part, ça ne toucherait que les opérateurs dominants, c'est-à-dire en France, par exemple, Orange. Donc ça voudrait dire que tous les autres pourraient faire ce qu'ils voudraient. Et puis, de toute façon, ce n'est pas qu'une question de concurrence. Ouais. Pour nous, c'est très simple. L'Internet, c'est un réseau de réseaux. Son nom véritable, c'est l'Internet public et mondial. Ça veut dire qu'une fois qu'on paye pour accéder à l'Internet, on accède tout ce qui est sur l'Internet.
Et là, on comprend pourquoi vous avez intérêt, dans ce cas particulier, à défendre l'idée de la neutralité des réseaux. Et j'en viens alors à la question qui va véritablement intéresser tous nos auditeurs, c'est est-ce que Skype et donc l'intérêt de la neutralité des réseaux en général sont en train d'avancer ? Est-ce qu'on a un espoir de pouvoir avoir à un moment ce principe de neutralité des réseaux défendu par l'Europe en général ?
Alors, heureusement, dans le travail que nous avons fait sur les deux dernières années, notamment à Bruxelles, nous avons réussi à expliquer, à faire comprendre un petit peu à pas mal de gens, et notamment à la commissaire pour la société d'information, Madame Reding, qu'il y avait un problème. Et malheureusement, jusqu'à il y a très peu de temps, et c'est encore le cas de pas mal de gens, ils nous disent « Mais vous savez, la neutralité des réseaux, c'est un problème américain. En Europe, on a beaucoup de concurrence entre les opérateurs télécoms, et donc, si vous n'êtes pas content avec le service que vous recevez, vous pouvez simplement changer de FAI. Mmh. Mais clairement, ce n'est pas possible, puisque, par exemple, en France, on ne peut pas changer de FAI mobile parce que tous bloquent l'accès à Skype, tous bloquent l'accès au peer-to-peer, à la voix sur IP, etc. Ouais.
Peut-être donc, que la quatrième licence avec Free changerait ça, peut-être ?
Ce serait bien, mais on a le cas...
On ne peut pas compter dessus, quoi.
On ne peut pas compter dessus. Il y a le cas au Royaume-Uni, par exemple, où il y a jusqu'à présent, il y a 5 opérateurs mobiles. Et il y a un petit opérateur qui s'appelle Free, qui est un opérateur qui a des réseaux un peu partout en Europe et en Asie-Pacifique. Et il y a à peu près 2 ans, on a commencé à sortir des produits avec eux, où en fait Skype était un logiciel de base qui était fourni avec leur téléphone. On a même développé ensemble un téléphone spécial qu'on a appelé le Skype Phone.
Ouais.
Donc qui a très très bien pris, ça a très bien marché, ça permettait aux gens d'utiliser leur Skype quand ils voulaient, où ils voulaient. Le problème, c'est que bon, c'est un petit opérateur qui couvre soi-disant 95% de la population, mais au niveau des parts de marché, il reste quand même très petit. C'est clair, c'est moins de 10%. Ouais. Donc, ça veut dire que 90% des consommateurs, à moins qu'ils ne fassent le gros effort de bouger jusqu'à ce FAI, donc de terminer leur contrat simplement parce qu'ils veulent aller sur utiliser Skype, à ce moment-là, oui, on aurait cette chance-là. Donc, dans le cas français, si on avait Freeze et que, effectivement, on espère qu'ils laisseront Skype, laisseront les utilisateurs accéder à Skype, ce serait très bien, mais malheureusement, ce sera qu'un petit opérateur, du moins au début, et il faut
et
pas se leurrer.
Ça ne résout pas le problème, quoi.
Ça ne résout pas le problème.
Est-ce que l'Europe est en train, vous nous disiez que certains sont en train de comprendre un petit peu la nature du problème, oui. Est-ce que l'Europe est en train de légiférer sur la question, dans le bon sens, dans le mauvais sens, quelle est la situation aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter vraiment ? Est-ce qu'on est dans une situation qui est similaire à celle des États-Unis où on a vu que le sénateur McCain a proposé cette loi complètement inepte qu'il a appelée le Internet Freedom Act ? Est-ce qu'on est dans la même situation ou...
Alors, je vais commencer donc par parler de ce qui se passe donc dans ce paquet télécom.
Ouais.
On a quelques provisions qui permettent de s'occuper de la neutralité, dans le sens où il y a un principe qui a été reconnu, c'est que les utilisateurs devraient pouvoir accéder au contenu, aux applications et aux services internet de leur choix. Donc c'est très bien, c'est le principe de base. Mmh. Et puis, on parle dans le détail du fait que les régulateurs devraient pouvoir mettre en place certaines mesures si du blocage ou de la dégradation de services sont constatées.
Ouais.
Le problème, c'est que, comme toute législation européenne, d'une part, ces couches sont en termes assez, assez vagues, on va dire, ouais. Et puis ça dépendra véritablement de la manière dont les États membres, dont les gouvernements nationaux transposent les directives en loi nationale. Et c'est vraiment ce dont on a peur. A priori, la Commission européenne est tout à fait de notre côté. La commissaire, donc Madame Reding, s'est exprimée maintes fois sur le sujet en disant que l'Internet ouvert, qui est l'expression que nous préférons à la neutralité, parce que c'est un petit peu plus clair, c'est une condition de base pour que l'Europe continue de bénéficier de toutes les... toutes les valeurs, tous les bénéfices, ouais, de l'Internet,
d'accord.
Et que, selon elle, donc, le paquet télécom protégerait la neutralité et l'Internet ouvert. Mais malheureusement, il va falloir s'assurer que, dans chaque État membre, les gouvernements se rendent compte de ce qui est demandé dans ces directives et qu'ils transposent le texte d'une manière qui protège très très clairement la neutralité des réseaux. Or, je pense qu'il y a des risques que ce ne soit pas transposé de la bonne manière. Et bien sûr, au niveau national, le problème qui est, somme toute, le même à Bruxelles, mais où on a réussi à faire un peu de progrès, c'est que les opérateurs ont quand même beaucoup de pouvoir, et beaucoup de pouvoir de lobbying.
Et alors,
oui, allez-y.
Ce que je comprends, donc, c'est qu'a priori, au niveau de l'Union européenne, on est plutôt dans la bonne direction. Mais je voudrais vous poser une autre question, parce que puisque vous évoquez la question des opérateurs, en me faisant un tout petit peu l'avocat du diable, si on veut être complet dans l'étude de la question, ce que nous sommes en train de demander, parce que je suis moi plutôt de votre côté, c'est un petit peu à ces opérateurs, puisqu'ils sont des opérateurs téléphoniques, on leur demande un peu de se saborder, puisque on le sait, Skype est un service immense, pratique et bon marché, qui pourrait aisément remplacer, avec un avantage énorme pour le consommateur, les services de téléphonie classiques. Alors moi, si je me mets dans la position des opérateurs de téléphonie, je vais être terrifié par cette idée. Je vais essayer de faire en sorte de ralentir les choses. Comment est-ce qu'on peut leur faire accepter la pilule, finalement, ce qui n'est pas évident?
Alors, d'une part, vis-à-vis de Skype en soi-même, c'est vraiment une grande question de savoir si oui ou non, une fois que la voix sur IP sera autorisée par ces opérateurs, il y aura un grand déplacement des revenus de voix vers Skype ou d'autres. Je pense que c'est pas du tout prouvé, et notamment quand je parlais de cet opérateur Free, donc qui n'est pas le Free français, mais en Grande-Bretagne, les études que nous avons faites montrent que, au contraire, quand les consommateurs peuvent faire ce qu'ils veulent sur Internet et qu'ils peuvent avoir Skype, on voit qu'ils utilisent Skype, c'est vrai, pour faire pas mal d'appels internationaux, etc., mais au niveau domestique, il y a peu de substitution, et en fait, les consommateurs continuent de faire des appels nationaux par les appels voix normaux de l'opérateur, et d'autre part, parce qu'ils se sentent un petit peu plus libres et qu'ils ne payent pas autant que d'habitude, ils consomment plus. Ouais. Donc l'un dans l'autre, le revenu généré par les utilisateurs qui utilisent Skype pour cet opérateur Free était plus élevé que la moyenne pour les utilisateurs qui n'utilisent pas Skype, de loin. Je crois que c'était de l'ordre de 20%.
D'accord.
Donc, quelque part, au niveau des revenus, c'était, Skype en soi-même, on est loin de prouver que ça va tuer les opérateurs. Si je peux finir là-dessus, si on parle plus généralement, donc pas seulement de Skype, mais simplement de l'Internet ouvert, donc que les consommateurs puissent avoir accès à tout l'Internet. On voit que la consommation d'Internet accédée par le mobile est en train d'exploser. Et c'est vrai, ça peut faire peur au niveau de la capacité, de la gestion des réseaux, etc. On peut y revenir. Mais a priori, c'est aussi la part des revenus des opérateurs qui est en plus grande croissance.
Oui.
C'est-à-dire que si les opérateurs sont assez intelligents pour se rendre compte du potentiel, et je suis sûr qu'ils le sont, à ce moment-là, ils pourraient remplacer aisément tout revenu perdu, si c'est le cas, par l'explosion de la consommation de l'Internet en mobile. Ouais. Il y a étude après étude, notamment par des analystes financiers comme Morgan Stanley, qui disent que l'Internet mobile va, d'ici 5 ans, dépasser l'Internet fixe. Donc je crois d'ici 2013, on devrait avoir plus d'un milliard d'utilisateurs d'Internet mobile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus d'un milliard de forfaits Internet mobile. Ça fait beaucoup d'argent. Donc je pense qu'il y a beaucoup de questions, mais avant de conclure que Skype c'est une, ou d'autres d'ailleurs, sont des problèmes, bon, c'est quelque part c'est une solution de facilité. Et de toute façon...
C'est sûr que... Oui, on a l'impression qu'il y a une sorte de d'inertie, comme toujours dans ces grandes industries. Le business model est un petit peu en train de se transformer. Et, enfin, moi, encore une fois, il me paraît assez évident que dans le cas des opérateurs de téléphonie mobile, ils sont plus en train de devenir des fournisseurs de données plutôt que de la voix uniquement. Je veux dire, moi, je vois avec mon iPhone, je téléphone, je passe un coup de téléphone une fois de temps en temps quand c'est vraiment nécessaire. Le reste du temps, je me sers du forfait Internet en énorme quantité. Donc,
bon, c'est vrai qu'il... c'est une source de revenus majeure qui est et je pense que c'est véritablement une question d'adapter effectivement les business models donc des opérateurs, et a priori c'est un très bon business model d'être un fournisseur d'accès Internet mobile, au contraire, puisque il va y avoir énormément de connexions Internet mobile, et ce sera à mon avis ça remplacera très rapidement les revenus. Et puis en plus de ça, au niveau des réseaux eux-mêmes, le réseau voix, même s'il peut continuer, donc le réseau traditionnel de voix, même s'il peut continuer encore quelques années, est en train quand même d'être remplacé par un réseau de données, un réseau qui utilise le protocole Internet de bout en bout de toute façon. D'ici 5 à 10 ans, ce sera a priori, la majorité des réseaux seront des réseaux de données, non pas des réseaux mixtes données et voix.
Donc, d'accord. Ce que vous voulez dire, c'est que même quand on utilise notre téléphone France Télécom, en fait, à un moment, on passe quelque part dans la transmission jusqu'à la personne à laquelle on passe par de la VoIP propriétaire France Télécom, quoi.
C'est du moins, ce sera de plus en plus le cas.
D'accord. Ok, je comprends.
Clairement.
Ok.
Donc, en plus, il faut pas se leurrer. Ça coûte moins cher de faire traverser de transporter un appel VoIP que transporter un appel voix.
Oui,
donc,
bien sûr.
A priori, il n'y a pas de raison pour pas de bonne raison économique ou quoi que ce soit, à part des raisons, disons, anticoncurrentielles, dans ce cas-là, pour vouloir arrêter Skype.
Bien sûr. Écoutez, je pense qu'on va s'approcher de la fin de l'interview. J'aimerais quand même vous poser une dernière question. Puisque vous nous disiez, les choses sont dans la bonne direction au niveau européen. L'important est qu'elles soient appliquées de manière cohérente au niveau national. Comment est-ce que nous, pour qui sommes des utilisateurs d'Internet, nos auditeurs sont des technophiles, si cette cause nous paraît importante à défendre, et moi je suis convaincu qu'elle l'est, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les choses évoluent dans le bon sens? Est-ce qu'il faut en parler autour de soi, appeler nos députés? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement?
Tout ça, oui.
D'accord.
Il faut en parler à son opérateur et se plaindre, parce qu'après tout, si on achète ce qui nous est vendu comme étant de l'accès à un forfait Internet illimité, même avec une petite astérisque qui nous dit « Veuillez lire les conditions d'utilisation », c'est pas ce qu'on nous vend. Je pense que la majorité des gens, quand on leur dit « Vous achetez un forfait Internet », c'est ça qu'ils veulent. C'est pas un forfait pour accès à certains sites web que leurs opérateurs leur laissent voir. Donc, il y a matière à se plaindre aux opérateurs pour qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça. Il y a matière à se plaindre auprès des députés et aussi...
Ah, pardon, on est en train de vous perdre.
Oui, vous m'entendez là?
Oui, c'est revenu. Je crois que vous êtes dans une chambre d'hôtel. C'est pour ça que la connexion n'est pas parfaite. Ça oui, vous disiez
pas. Oui, je disais qu'il faut en parler au gouvernement. C'est le plus pressant, je dirais, puisque c'est le gouvernement qui est en train de devoir transposer les directives européennes à l'heure actuelle en législation française. Et il faut absolument faire comprendre au gouvernement que avoir un Internet ouvert, c'est important à la fois pour les citoyens et pour l'économie en général, puisque sans avoir accès à tout l'Internet, on perd des sources de productivité, des sources d'information, Et comme l'a rappelé la Cour constitutionnelle, l'accès libre à l'Internet, c'est un droit quelque part fondamental. Et il faut absolument le préserver. J'ai entendu dire que Madame, que la ministre avait notamment parlé du principe de non-discrimination par rapport à la neutralité des réseaux. Et je pense que c'est ce genre de principe qu'il faudrait voir dans la loi française. C'est-à-dire qu'on clarifie en fait ce qui est marqué dans la directive européenne pour dire très spécifiquement que les opérateurs doivent un accès Internet non discriminatoire, où les usagers peuvent avoir accès au contenu des applications de leur choix sans restriction, sans discrimination par rapport au type d'application ou de service qu'ils veulent utiliser.
Oui. Les seules exceptions devraient être...
Les seules exceptions devraient être s'il y a des questions légales éventuellement par rapport à, disons, la pornographie infantile ou des raisons techniques véritables. C'est-à-dire s'il y a véritablement de la congestion des réseaux et que la gestion des réseaux est effectuée d'une manière absolument technique et temporaire. Ça devrait être les seules exceptions. Donc je pense qu'il faut absolument que on fasse comprendre au gouvernement que c'est un problème très important et qu'ils doivent légiférer ainsi pour préserver l'Internet ouvert.
Voilà. Eh bien, écoutez, espérons que le gouvernement vous entende et nous entende aussi. Et puis, je vous remercie mille fois d'avoir accepté cette interview, d'être venu nous parler de tout ça. Et puis, on vous souhaite bon courage dans votre entreprise qui a l'air un petit peu compliquée avec l'Union européenne.
Bah, écoutez, merci beaucoup et puis à bientôt.
À bientôt, merci Jean-Jacques. Merci à Jean-Jacques Sahel d'avoir été avec nous pour cette interview. Je vous rappelle l'adresse de cette pétition que vous pouvez aller signer, c'est euuopeninternet.eu. Donc www.euuopeninternet.eu. Vous pouvez aller la signer pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant l'interview. Et on va passer immédiatement à notre statosphère préférée, c'est-à-dire celle de Guy. Oh, oulala, c'était...
Ah, j'attends avec impatience chaque semaine. J'adore ce qu'il fait. C'est vraiment...
Et tu n'es pas le seul, nous aussi. Et donc, immédiatement, la statosphère de Guillaume.
Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui de Microsoft et de l'outil Demographics Prediction, sorti de leur laboratoire courant 2008 et en démonstration sur le web. Demographics Prediction est capable, à partir d'un mot, d'une expression ou d'une adresse Internet, de fournir le profil type des internautes potentiellement intéressés par la requête formulée. Ce profil est en fait établi à partir des données personnelles fournies par les internautes inscrits sur Bing, MSN ou Hotmail. L'outil est ainsi capable d'évaluer leur répartition en sexe et âge. Pour vérifier la cohérence de l'outil, j'ai testé plusieurs requêtes et voici les résultats pour 4 d'entre elles. La requête Sephora, célèbre marque de produits de beauté, renvoie 80% de femmes. La requête Assurance Vie montre que les plus de 50 ans sont largement les plus nombreux. Avec l'adresse internet pommedapi.com, magazine pour enfants, les plus jeunes sont majoritaires. Et enfin, avec la requête Clara Morgan, on obtient 90% d'hommes. Des résultats donc, pour le moins, cohérents. Retrouvez les outils de Microsoft et toutes les statistiques du web sur statosphere.fr. A bientôt.
Sympa, non? Excellent. Cette histoire de... Ouais, moi je vais aller le tester, j'ai pas eu le temps encore.
Et sur French Spin d'ailleurs.
Ah, écoute, bonne question.
La chatroom, vous pariez combien de pourcents d'hommes? Moi je dis, allez, mais 87.
Je sais pas si French Spin sera un site qui sera, enfin un terme qui sera pris en compte par ce genre de choses, mais alors je vais sur... Je vais sur statosphere.fr, donc le site de Guillaume, Adam Ned. Je pense qu'il a pas, qu'il a déjà, le site de Bing a déjà été sorti des premières news. Donc j'arrive pas à le trouver. Bref, bah écoutez, allez-y vous-même directement pour tester ça sur statosphere.fr. Et merci encore une fois à Guillaume.
On nous dit 99% d'hommes et 1% d'hermaphrodites.
Moi, Jordan requête, Fi. J'aime Adopi, j'aimerais savoir combien il y a d'idiots. Enfin, je sais pas hein, si on peut tester ça. En fait.
Ça serait sympa quand même. Un outil similaire qui nous donne le QI des personnes qui ont. Oh, ça fait un peu peur en fait. Je suis pas certain de vouloir. Finalement,
il y a une application
non,
sur Facebook, je crois, mais ça marche.
Voilà, donc la suite, c'est le site fantastique. Ah, c'est vrai que j'ai un petit jingle pour le site fantastique.
Et voici venir la liste des sites fantastiques. Tic, tic. Bon, d'accord, c'est un écho fait à la voix, mais je suis pas hyper doué. Où est
Moi, ça me fait marrer.
Hein. Excellent, c'est
je pense qu'il y en a qui vont en avoir marre, mais moi, ça me fait rire.
Mais c'est énorme. Énorme.
Et donc, notre. Bon, donc notre site fantastique, encore une fois, je ne sais pas comment il fait Mathieu, hein, mais il réussit systématiquement à nous trouver des sites super intéressants. Mais ouais, même quand il n'est pas là, il nous envoie des sites, donc c'est cool. Ce coup-ci, c'est une partie du site de Atari.com.
Ah, je savais que tu allais le prendre celui-là.
Tu t'en doutais.
C'était celui-là que j'aurais choisi parmi tous en plus.
C'est clair. c'est Atari.com/arcade qui vous permet en fait de jouer à des très vieux jeux de l'Atari VCS 2600. Donc vous vous souvenez, cette première console, c'est pas la toute première console de jeu à la maison, mais c'est l'une des premières, celle qu'on a tous eu chez nous. Et il y a quelques jeux qui sont disponibles totalement gratuitement sur le site web. Et évidemment, ils sont tellement vieux et faciles à faire que on peut lancer une page web et y jouer. Je pense que les plus jeunes d'entre nous, d'entre vous, ouais, ils vont regarder ça, ils vont dire « Mais sérieux, c'était des jeux, vous passiez du temps devant ces choses-là » Mais les gens qui ont connu cette époque passeront un bon petit quart d'heure. Moi, j'ai essayé Adventure et Astéroïde.
C'est surtout les souvenirs que ça fait, que ça fait ressortir, c'est énorme.
Tout à fait. Donc, ce site fantastique est très chaudement recommandé. C'est atari.com/arcade. C'est vraiment sympathique et c'est des vrais, vrais souvenirs. Le conseil logiciel, en fait, Mathieu voulait conseiller Double Twist, mais on en a déjà parlé. C'est cet outil qui vous permet de synchroniser vos téléphones portables.
C'est parce qu'il a été mis à jour. Il supporte les droïdes et tous les portables avec.
Oui, mais il supporte toujours pas l'iPhone, donc.
Ça ne le fera pas. Il y a iTunes pour.
Oui, mais non, moi j'aurais voulu pouvoir transférer facilement mes choses. Par contre, c'est un autre outil, mais qui est uniquement pour les Maceux, en l'honneur de Mathieu, uniquement pour Mac. C'est un outil dont je vais te laisser parler, puisque c'est toi qui l'as aussi.
C'est AirLock. C'est un truc tout bête. C'est quand vous avez un Mac et un iPhone, vous installez AirLock, vous devez avoir le Bluetooth activé sur votre iPhone, et en gros, AirLock va détecter quand vous êtes proche ou quand vous partez de votre Mac, ce qui fait que dès qu'il détecte que vous partez, il verrouille tout votre Mac, mot de passe et tout ce qu'il faut. Et quand vous revenez, il déverrouille tout.
Voilà. Super pratique.
C'est aussi bête que ça.
Il faut un Mac et un iPhone ou il faut un Mac et ça marche avec n'importe quoi ?
Pour le moment, c'est que iPhone. Mais vu que l'application, elle coûte 7$, donc ça fait 5€, à mon avis, vu que c'est vraiment une application, ça, c'est super bien. Moi, tu te lèves, tu pars, ton ordinateur, il se verrouille. C'est le truc dont je rêve.
Ouais, moi, pour le bureau, ouais, je rêve de ça.
Et alors, sous Windows, t'es obligé de faire Windows L pour locker. Sous macOS, t'es obligé d'activer la rotation des profils et puis faire 3 clics pour verrouiller ton ordi. Enfin, c'est super, c'est chiant quoi. Et là, tu te lèves, tu pars et puis il se verrouille. Donc, c'est une super idée. À mon avis, ça doit bien se vendre. Donc, je pense qu'ils vont activer ça pour d'autres téléphones. Enfin, c'est vraiment génial.
D'accord. Ça couplé à iAlertU aussi, je sais pas si vous connaissez ce logiciel sur les Mac qui permet de verrouiller avec sa télécommande son Mac façon voiture, ça fait un petit tut tut et dès que quelqu'un
il se met à clignoter sur les côtés.
non, dès que tu bouges l'ordinateur en fait, il se met à hurler en fait avec une espèce d'alarme. S'il est ouvert en fait, l'iSight prend une photo qu'elle t'envoie par email.
Ah oui, j'ai vu ça.
Excellent.
L'écran arrête pas de clignoter en fait et tout ça. Donc et alors pour l'arrêter, soit t'as une télécommande associée à ton Mac, soit tu enlèves la batterie quoi.
Ah oui, carrément. Oui, effectivement, c'est pas.
Il y a un accéléromètre pour détecter les chutes dans les MacBooks. Et donc dès qu'on le bouge, ça sonne quoi. Ou si on l'ouvre, ou si on débranche un périphérique, ou on débranche l'alimentation secteur.
Voilà, c'est sympa.
Et ça fait qu'on s'amuse à ça. quand ils envoient leur ordinateur en SAV, ils activent des petites applications qui prennent une photo toutes les 30 secondes sans activer le point vert de la webcam, ce qui fait que tu vois toute la procédure, comment ça se passe, tu vois le mec qui répare, tu le vois en train de boire son café.
Ah, mais c'est l'espionnage
industriel.
Ouais, carrément. Ok, bah en tout cas, donc AirLock et, comment il s'appelle, iAlertU.
iAlertU, ouais, voilà.
Donc AirLock et iAlertU qui feront le bonheur de nos amis Maceux que nous aimons évidemment beaucoup.
Et rien pour Windows. C'est un U à la fin. Hein.
Ah, ok. Et rien pour Windows aujourd'hui, tac, bien fait pour nous. Donc, eh ben, écoutez, voilà, on arrive à la fin de l'émission. Je vais quand même vous encourager, comme d'habitude, à aller sur iTunes pour nous laisser un petit commentaire, comme, par exemple, Azahir qui nous dit « Je suis venu de Azeroth.fr, mon ancien podcast que j'ai arrêté depuis quelques mois, parce que je sais que la mention Patrick Béja est un gage de qualité. » Et ça, ça me fait très plaisir. Merci, Azahir. Et comme entendu... Relation
d'origine contrôlée.
Et comme attendu, un podcast
Patrick Béja. Un petit logo rond comme voilà. Ça.
Mais non, c'est 33% Patrick Béja, 33% Mathieu Blanco, 33% Cédric Bonnet aujourd'hui. C'est ça qui fait la véritable qualité. C'est une sorte d'hybride absolument merveilleux. Donc je continue le commentaire d'Anaïr. Et comme attendu, un podcast tech vraiment bien fichu, assez accessible et une heure de pur plaisir numérique toutes les deux semaines à ne manquer sous aucun prétexte. Et Tartuffe dit aussi le podcast audio français IT indispensable, bien au-dessus des podcasts des grands médias, incontournable. Merci Tartuffe, merci
et
Azahir.
Voilà, ça c'est bien dit.
Et si vous voulez, comme Tartuffe et Azahir, nous laisser des commentaires pour nous aider à être un petit peu plus mis en avant sur l'iTunes Store, eh ben n'hésitez pas à passer sur l'iTunes Store et, comme je le disais, laisser un petit commentaire. Et une autre chose dont je veux absolument parler, parce que je l'ai oublié au début de l'émission, je devrais le faire au début et je le ferai la prochaine fois, désolé, mais c'est les remerciements pour les pourboires. Comme vous le savez, vous pouvez aller sur le site et me laisser un petit pourboire pour faire tourner le site et pour mettre du beurre dans les pâtes. Donc, merci à ceux qui l'ont fait cette fois-ci.
Des pâtes avec le beurre.
Pardon ? Ou des pâtes avec le beurre parfois, ouais, ça dépend des mois, là il y a les impôts, ça cogne dur. Donc merci à Pierrick, Bob, Lionel, Martin, Yann, Jérémy et Guillaume ou Pierre, je ne sais pas lequel des deux était à l'origine du pourboire, donc merci à vous deux, merci à tous ceux qui l'ont fait, vraiment ça me fait extrêmement plaisir et donc si vous voulez, n'hésitez pas à aller sur le site pour ces petits pourboires. Bah écoutez, on arrive à la fin de l'émission, donc je vais laisser la scène, libérer la scène pour mes deux compères, pour qu'ils nous disent un petit peu où on peut les retrouver sur le net, si vous n'en avez pas eu assez, si vous avez fini l'émission et que vous vous dites « Mais c'était vraiment trop court, moi je veux plus de Mathieu et de Cédric ». Mathieu, où on va pour retrouver tes productions internetographiques ?
Internetographique, vous pouvez aller sur mon blog mathieublanco.fr, 2th, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, mais ça n'existe pas !» Et puis vous allez pouvoir retrouver déjà We Love MacJT qui a bien été mis à jour aujourd'hui, où vous avez aujourd'hui j'ai mis en ligne deux podcasts vidéo et un podcast audio, le JT ce soir. Donc podcast vidéo sur la fête des Lumières, sur les tablettes Cintiq de chez Wacom et le JT qui a résumé de ce qui s'est passé les 15 derniers jours dans l'actualité technologique. Il y a d'autres podcasts littéraires à demi-mot dont le deuxième et le troisième épisode vont arriver sous peu, lecture audio, et il y a d'autres podcasts en cours de préparation.
Et je précise une petite chose qui est la qualité de ces podcasts vidéo avec tes sortes de petits machins touch que tu fais là où tu fais les présentations en touchant un écran qui n'existe pas et qui font s'afficher toutes sortes de choses.
Alors, on rajoute du tactile dans l'univers. C'est dans l'univers quand t'es... Non, dans l'univers, ça y est. Ça y est, on vient de passer 1h du matin, j'ai bossé comme un fou, je parle... Non, je veux dire, quand t'es, voilà, on rajoute du tactile quand je peux, parce que des fois, ça s'y prête pas. C'est un peu plus que... J'essaye d'apporter quelque chose en plus et je voulais faire un podcast tactile, ce qui fait que je prends des objets qui n'existent pas, mais on a l'impression qu'ils existent. C'est assez sympa.
C'est super
bien fait. Et c'est super sympa à faire parce que les gens te regardent vraiment bizarrement.
Non, mais l'intérêt, en fait, ce que, l'intérêt que je trouve à cette manière de faire, c'est que tu le fais pas uniquement pour le plaisir de faire des petits machins technologiques avec ton logiciel de montage ou d'effets spéciaux. C'est vraiment que ça sert à quelque chose dans la vidéo, quoi. Donc, allez y jeter un coup d'œil vous-même, vous comprendrez de quoi il s'agit. C'est sur Mac, welovemac.net, c'est ça ?
Alors, ouais, ils peuvent aller sur mathieublanco.fr, comme ça, ils ont tous les liens à droite.
D'accord.
Sur toutes les émissions.
Parfait. Et Cédric, mais où donc peut-on te retrouver, Cédric ?
Bah, chez moi, à Bordeaux.
Avec la fibre,
c'est ouvert. Venez boire un verre, il n'y a pas de problème. En fait, on me retrouve essentiellement sur Geekink et No Watch TV. Alors, No Watch TV, on va très vite avoir un portail assez sympa qui va regrouper toutes les émissions de No Watch, c'est-à-dire Scuds TV, Zapcast et de futures émissions. Donc
c'est voilà, bien mystérieux tout ça.
Ouais, c'est très mystérieux. Sur geeking.fr, évidemment, on a publié le numéro 50 aujourd'hui où on montre un petit peu comment on fait le podcast Geeking fait découvrir aux gens que l'équipe technique de 22 personnes qui s'occupent du podcast. Et c'est pas une faute de frappe, hein. C'en est 22 derrière la caméra et tout, c'est un truc de malade. C'était vraiment sympa de le tourner. Et puis on a lancé une version HD de Geeking, un flux HD pour ceux qui veulent le regarder sur leur ordinateur et pas sur leurs appareils mobiles. C'est un pari qu'on a pris de voir un petit peu si ça prenait ou pas. Et on est content parce qu'on s'est retrouvé avec de très bons classements dans iTunes, y compris pour le HD et pour le SD. Donc voilà.
Bah écoute, moi j'ai pas encore vu la version derrière la caméra et derrière les coulisses.
Mais il est publié depuis tout à l'heure.
Ah d'accord, ok, bah c'est pour ça. Mais le précédent où vous disiez justement que vous alliez montrer les derrière les coulisses sur cet épisode, et c'était, vous aviez fait un live sur le précédent pour la première fois.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, on a tourné les coulisses, enfin, l'installation et tout ça de cet épisode-là. J'ai filmé la timeline aussi sur Final Cut de tout mon montage et tout ça, et je la montre dans ce podcast. Bon, c'est assez rapide, hein. Et surtout, je tiens à remercier les gens qui nous suivent parce qu'ils nous ont fait de super vidéos pour de remerciements et d'encouragements, et qu'on a diffusé dans le podcast, hein. C'est pour ça qu'il dure 50 minutes. Et en fait, il y a 25 minutes de Julien et moi et 25 autres de tous les autres. Donc voilà, quoi.
Magnifique, c'est cool. Bah écoute, j'ai hâte, ça va me faire une petite émission pour m'endormir ce soir. C'est magnifique.
Voilà, et puis le 51 donc est en tournage mercredi et disponible ce week-end normalement si tout va bien.
Magnifique, c'est Geek Inc. Qui est disponible sur iTunes et sur geekinc.fr. C'est quoi, c'est .fr ou .com?
C'est .fr et nowatch.tv, le forum, allez vous inscrire. Voilà.
No Watch, bien
sûr. Ça y est, j'ai fait ma retape.
Je précise que en fait, c'était Morgoth et pas Pierrick, parce que il est dans la chatroom et il me l'a précisé. Donc, il a droit à sa petite correction. Voilà, comme ça, c'est fait.
Il a droit à sa petite correction.
Morgoth. Oui, non, c'est pas exactement ce que je voulais dire. Et voilà. Et de mon côté, deux choses également dont je voulais parler. La BD Noobs dont Phil est l'auteur et que j'avais commencé avec lui à l'époque. Vous savez que c'est bientôt Noël, et si vous cherchez un cadeau à faire à vos amis un petit peu geeks, la BD Noobs est toujours disponible dans toutes les librairies de France et de Navarre. Par Navarre, j'entends Belgique et Suisse, hein, bien sûr, ça va de soi. Donc pensez-y, c'est un cadeau bon marché et de haute qualité, ça fera plaisir à Phil et à moi aussi du même coup. Et autre chose, c'est notre nouveau podcast sur frenchspin.com, c'est le podcast Upload, où vous découvrirez toutes sortes d'applications pour votre téléphone mobile, plus particulièrement l'iPhone évidemment. C'est toutes les deux semaines en alternance avec le Rendez-vous Tech, avec son propre flux RSS, donc il faut vous abonner là-bas si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à aller voir sur FrenchSpin directement, vous le trouverez là-bas. Et vous pouvez également sur frenchspin.com laisser des commentaires sur les notes de l'émission, retrouver tous les liens dont on a parlé aujourd'hui, et vous pouvez également nous envoyer un email sur tech@frenchspin.com si vous voulez nous contacter. Et puis ça va être tout pour nous aujourd'hui. Je remercie une fois de plus Mathieu et Cédric d'avoir été avec nous pour ce podcast tardif.
Merci à toi.
Et, on se retrouve dans 2 semaines. Ça sera, si je ne dis pas de bêtises, le 21 décembre. Merci à tous. Merci Mathieu. Merci Cédric. Merci la chatroom. Et à bientôt. Ciao, ciao.
À bientôt. Ciao.